Bibliothèque nationale de France.
Dans le cadre du cycle de conférences consacré à la fantasy, Justine Breton et William Blanc explorent la postérité de la légende du roi Arthur.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc merci de venir parler épée dans le rocher et noix de coco ce soir. Donc beaucoup en choix aussi. Donc Justine et moi on se connaît un petit peu quand même, ça va, c'est voilà, on a travaillé plusieurs fois ensemble.
Errer sur les chemins de Camelot.
N'est-ce pas? Donc on va essayer de faire ça devant, on s'est réparti un peu la présentation. Moi, je vais commencer par le truc chiant, donc je vais commencer par le truc d'historien, en fait, voilà. Donc, voilà, je vais parler un peu du mythe arthurien historique, et puis après, on va dérouler tranquillement. On a des extraits à passer. On a aussi un numéro de claquette à faire aussi, paraît-il. Voilà, donc,
Si vous êtes sage,
voilà, c'est. Ce qu'on va faire, c'est un peu comme la semaine dernière, mais vu que le mythe arthurien, il y a beaucoup de choses à dire. C'était vraiment beaucoup de choses. On fait un peu comme la semaine dernière, c'est en fait, vous pouvez poser des questions pendant le déroulé de la conférence, voilà, en levant la main sagement. Alors, évitez peut-être aussi. Alors, j'ai pas une question, mais une remarque, voilà, donc, voilà, c'est de poser des questions pour faire avancer le truc, voilà, donc, voilà, quoi. C'est bon, enfin après.
Et effectivement, on a une heure et demie, si je ne dis pas de bêtises, hein,
ouais.
Une heure et demie pour évoquer globalement 1000 ans d'histoire littéraire, artistique, etc. Donc forcément, on ne va pas pouvoir tout mentionner, on va essayer de dire l'essentiel.
Ouais, parce qu'on l'a souvent ça. Ouais, mais vous n'avez pas parlé de
voilà.
Ça et tout, genre, ouais,
j'anticipe.
Ouais, c'est parce que c'est assez. Enfin, je ne sais pas, moi je pense que toi, tu as fait ta thèse sur le mythe arthurien. Au cinéma notamment, enfin cinéma littérature, ouais. Au mythe arthurien, enfin, et elle a été publiée quoi en 2019
en version condensée.
En version condensée, donc qui est quand même assez épaisse, voilà. Moi, mon bouquin, il est paru en 2016. Ce qui est assez frappant, c'est que je pense que ça fait la même chose pour toi, c'est que à chaque fois, quasiment, mais sans rire, hein, moi, à chaque fois que je me remets un peu à travailler sur ce truc-là, à chaque fois, je trouve des trucs en plus,
ouais.
C'est-à-dire. Et donc c'est à la fois c'est génial, mais en même temps c'est extrêmement frustrant, ce qui fait que je pense sincèrement, si un jour quelqu'un qui dit non mais moi j'ai fait la synthèse absolue sur le mythe arthurien, c'est un gros menteur ou une menteuse, c'est impossible en fait. On n'a jamais fini de faire le tour.
Voilà. Surtout que tu vois entre depuis la publication de ton livre ou du coup la fin de ma thèse ou des choses comme ça, il y a eu rien qu'au cinéma au niveau blockbuster internationaux etc. Il y a eu je crois 5 ou 6 films qui sont sortis directement sur le roi Arthur, sans parler de toutes les références qu'on trouve chez les super-héros etc. Donc on n'a pas
sans fini. Compter les BD, sans compter les romans, voilà, c'est je veux dire c'est sans fin quoi. Donc voilà.
On est là pendant 6 ans.
Voilà.
Prêt pour parler.
Voilà, donc en fait c'est même voilà encore une fois c'est génial, mais c'est assez frustrant en fait hein, parce que bon voilà donc et non seulement ça, mais en plus voilà moi je découvre encore, même là j'ai préparé pour mes étudiants un cours sur le super-héros arthurien, et en fait j'ai découvert en préparant ce cours qu'il y avait des super-héros arthuriens que j'avais loupé en fait, voilà, donc c'est un peu bon, on en reparlera après.
Ne sont-ils pas tous arthuriens?
C'est une vaste question.
C'est un sujet de philo, vous avez 4 heures.
Voilà donc je vais commencer donc voilà pour faire un tour très rapide sur le mythe arthurien, on va dire historique. Donc le mythe arthurien au Moyen Âge, on parle bien de mythe, hein, parce que tout bêtement en fait, alors je vais
casse les illusions.
Voilà, je vais faire couler quelques larmes, je sais. Bon a priori on est quasiment certain aujourd'hui, il y a quand même un accord en fait hein, général pour dire au niveau des historiens et des archéologues que le roi Arthur n'a pas existé, ce n'est pas un personnage historique, mais c'est une création littéraire en fait, une création mythologique. Il y a eu des tentatives pendant les années 70 de vouloir absolument trouver un roi Arthur historique qui sont soldées par des échecs. On le sort régulièrement qu'on a retrouvé la tombe du roi Arthur, on a retrouvé sa chaussette gauche, etc. et tout. Non, en fait, généralement, on se rend compte quand on creuse un petit peu que c'est des coins, notamment en Cornouailles britanniques, qui font un peu de publicité pour le tourisme arthurien, quoi. Mythe arthurien historique qui apparaît certainement au 9e siècle, hein, dans un texte hein, d'un moine gallois qui s'appelle Nennius, en fait. Hein, donc, texte assez court, je ne l'ai pas mis là, mais en fait, il fait une page, en fait, hein, c'est un extrait dans un texte beaucoup plus long, où en fait, il n'y a que Arthur qui est cité, en fait, voilà, il y a Arthur qui aurait mené 12 batailles contre les Saxons, en fait, alors 12, encore une fois, c'est un chiffre très littéraire, très médiéval, parce que 12, ça fait une référence, évidemment, à la Bible et tout, donc voilà, donc il y a pas mal de choses comme ça.
Ouais, et puis on est dans une, je t'interromps honteusement, on est dans une littérature qui, à l'époque, où on parle d'histoire, enfin des textes historiques, des chroniques, etc., mais on n'a pas la même définition qu'on a aujourd'hui de la séparation qu'on fait entre histoire et littérature ou entre réalité et fiction. Ce qui veut dire que dans ces textes-là, on peut tout à fait mettre des éléments qui vont être plus symboliques qu'autre chose. On peut très bien avoir des grandes figures historiques qui vont combattre des dragons. C'est présenté comme des chroniques, comme des faits historiques. On sait aujourd'hui, avec un petit peu de recul, que les dragons, bah, c'est calme, hein, déjà à l'époque. Mais voilà, c'est une représentation qu'on n'a plus véritablement aujourd'hui. Ce qui fait qu'on ne peut pas non plus prendre au pied de la lettre ce qui nous est dit dans ce texte-là, donc du Pseudo-Nennius du 9e siècle. Donc on fait avec ce qu'on a, quoi.
Et par exemple, tenez, moi je donnais un petit extrait d'un texte, peut-être paraît-il, semble-t-il, le deuxième texte qui parle du roi Arthur, hein, donc les annales Cambria, en fait. Hein, donc, et vous voyez, en fait, c'est très court. Il y a littéralement quatre lignes, enfin trois lignes et demie, quoi. Donc, et il y a un autre personnage, en fait, hein, qui est cité, le second personnage arthurien. Hein, donc, le premier, c'est Arthur, hein, mais le second personnage à avoir été cité dans le mythe arthurien, c'est Mordred, en fait. Hein, voilà. Et on ne sait même pas dans cet extrait-là si Mordred est un ennemi d'Arthur ou un ami, quoi. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est encore une fois, quand on commence à parler des premiers textes arthuriens, on jongle avec des textes très flous, en fait, hein. On connaît pas vraiment ou très mal le contexte de création. Généralement, c'est des monarchies galloises qui sont en lutte contre des royaumes anglo-saxons, donc forcément les Saxons, c'est les méchants et tout. Donc voilà, donc mais voilà, je vais pas m'étendre dessus parce que là, c'est limite, ça sera sujet d'une conférence à part entière, hein.
Non,
je vous montre un truc aussi. Un des grands textes, hein, peut-être le texte qui va peut-être le plus lancer le mythe arthurien au Moyen-Âge, c'est donc l'Historia Regum Britanniae, donc l'histoire des rois de Bretagne de Geoffroy de Monmouth, en fait. Alors c'est marrant parce que la BNF possède un exemplaire, en fait, hein, d'un des premiers manuscrits de ce texte-là. Le texte a été composé environ 135, et là vous avez la première représentation connue, en fait, hein, du roi Arthur, en fait, hein, qui est donc conservé à la BNF, en fait, hein, et que vous pouvez avoir sur Gallica, en fait, vous pouvez l'avoir gratuitement en PDF sur Gallica, c'est assez impressionnant. Voilà, et donc vous avez, voilà, c'est vraiment peut-être le texte qui va le plus lancer, en fait, hein, c'est notamment ce texte-là qui va coller le mythe de Merlin au mythe arthurien. C'est aussi ce texte-là où on va inventer notamment le père d'Arthur, on va aussi inventer le fait que Arthur a été conçu avec Igerne, machin et tout. Voilà, donc il y a pas mal de choses, en fait, que Geoffroy, c'est quelqu'un qui a beaucoup développé le mythe arthurien. Et après, il y a plein de gens qui vont le copier, notamment Vass, après, 20 ans après, qui va faire une traduction. À l'époque, mais traduction, c'est un mauvais terme, parce qu'en fait, il traduit, mais il ajoute plein d'éléments, en fait, aussi, ouais. Notamment la table ronde.
Il enlève ce qui lui plaît pas.
Il enlève ce qui lui plaît pas,
voilà. À sa sauce, quoi.
Alors, juste pour résumer très rapidement le mythe arthurien, ou l'évolution du mythe arthurien dans un schéma assez simple, à l'époque médiévale, vous avez ça. Voilà. C'est un schéma assez simple, là, donc et ça serait beaucoup plus compliqué, en fait. Donc, et en fait, juste, vous prenez pas la tête, essayez de tout comprendre, etc. et tout. Juste le truc, en fait, à retenir, je pense que c'est essentiel. Il y a deux choses. La première chose, c'est que le mythe arthurien, dès l'époque médiévale, est un mythe qui est composite, en fait. C'est un mythe qui est plastique, on fait ce qu'on veut avec. Ce qui fait que dès cette époque-là, les auteurs, ils vont rajouter des éléments qui leur plaisent, ils vont en enlever d'autres, en fait, hein. Et puis, en fait, concrètement, c'est un peu comme une espèce de sandwich, hein. Chacun va ajouter sa couche et tout, puis voilà. Donc,
Ouais, ce qui fait qu'en fait, au Moyen-Âge, on n'a pas la notion de droit d'auteur, ouais, comme on l'a aujourd'hui. Ce qui fait que n'importe qui est libre de s'emparer de ce qu'il veut, du texte qu'il veut, de le traduire, de le mettre dans une autre langue, d'ajouter les passages qu'il veut.
C'est un peu, en fait, le contre-exemple sera un peu Tolkien. Tolkien, si tu veux ajouter quelque chose au légendarium de Tolkien, tu vas te, voilà, ça va poser un problème, okay, avec, notamment avec la, voilà, avec, là, à l'époque, en fait, le mythe arthurien, il appartient à personne, à tout le monde. Donc, en fait, littéralement, on fait ce qu'on veut. Ce qui fait, en fin de compte, ça, c'est important, et je pense que, justement, on sera d'accord là-dessus, c'est que, en fin de compte, nous, on fait pas de différence entre les textes médiévaux et, par exemple, des jeux vidéo actuels, en fait. Tout ça fait partie du mythe arthurien, en fait. Oui. Le mythe arthurien, ça commence a priori au 9e siècle, et ça continue encore aujourd'hui. Mais sauf qu'à chaque fois, en fait, on va ajouter des éléments, et le mythe va changer en fonction du contexte de production. Ouais. Voilà, donc, il y a déjà une question.
Ouais, juste d'après vous,
il faut prendre le micro, parce que c'est enregistré.
Pour l'enregistrement, oui.
C'est...
Dans quelle mesure chacun des auteurs avait connaissance des trucs passés?
Ça mériterait un développement par auteur, en fait, et par œuvre. Ouais. Voilà. Ce qui est certain, c'est que, par exemple, ils sont pas obligés d'avoir lu les œuvres, hein, et en fait, ce qui est certain, c'est que les auteurs, ils vont inventer complètement le passage. Il y a une énorme différence entre le mythe arthurien version Geoffroy de Monmouth, donc vers l'année 130. Et le mythe arthurien version Chrétien de Troyes, 1180, 190, il y a d'énormes différences. Chrétien de Troyes, il invente le Graal, il invente Lancelot. Voilà, quoi. Il invente Perceval. Ça, c'est des gens qui ne sont pas présents, en fait. Et même, par exemple, chez Geoffroy, Merlin, il est surtout lié à Uther Pendragon, en fait. Hein. Il n'est pas lié à Arthur.
La génération d'avant.
Ouais. C'est la génération d'avant. Et après, c'est Merlin, il va devenir. Enfin, ça change. Ils peuvent les avoir lus, mais en fait, ils s'en fichent. Ils font quelque chose de nouveau. Mais c'est ce que font aussi les auteurs actuels, en fait. Hein. Donc voilà, ils vont.
Oui. Alors après, on sait que des textes comme le roman de Brut, de Vasse et Chrétien de Troyes, par exemple, Robert de Boron, c'est-à-dire les trois qu'on voit là en noir, et puis la Vulgate ensuite. On a conservé aujourd'hui pas mal de manuscrits, donc on sait que c'est des textes qui ont été beaucoup copiés ou recopiés, et on sait aussi que c'est des textes qui ont circulé, qui ont été beaucoup diffusés, lus ou rejoués par des jongleurs aussi un peu partout sur les foires. On sait aussi que à peu près, enfin au début du XIIIe siècle, enfin XIIe, XIIIe siècle, on a aussi, quand on regarde les registres, etc., on a beaucoup de gens qui s'appellent Arthur, Lancelot, Tristan. On a une mode comme ça des prénoms des chevaliers qui ont été donnés, comme aujourd'hui des gens qui appelleraient leur enfant Daenerys ou des choses comme ça. Bon, voilà. Donc c'est le même principe.
Gohan.
Voilà.
Ça existe. Donc chez eux, ça existe.
Que ça a été diffusé au moins comme ça. Donc il y a des chances que les auteurs aient eu au moins des bribes et ils se sont emparés au moins des bouts qu'ils connaissaient et après ils ont construit, ils ont rempli les trous avec ce qu'ils voulaient.
Mais juste par exemple, il y a un autre, ça permettra un peu de faire la transition. Il y a un texte pour le coup a une plus grande postérité que les autres. Hein, c'est Malory, hein, le Morte d'Arthur, en fait, parce que c'est notamment le premier texte donc qui a été fait fin 15e siècle là. Donc et très bien. Et le truc c'est que il a été fait fin 15e siècle et c'est le premier texte qui a été édité, imprimé en fait, voilà. Et c'est de l'anglais 15e siècle, ce qui fait que c'est accessible aussi. Enfin, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est accessible ouais. C'est Shakespeare un peu plus compliqué, quoi, concrètement. Voilà,
c'est ça. Et puis l'avantage voilà. Aussi, c'est que Malory a.
Et puis c'est une synthèse, en fait.
C'est ça. Il a fait ce qu'on appelle une anthologie, c'est-à-dire qu'il a pris, en fait, les textes qui existaient avant, et il a essayé de les assembler, de leur donner une cohérence. C'est-à-dire qu'on avait, chez Chrétien de Troyes, on avait les aventures de Lancelot, les aventures de Perceval. Chez Geoffroy, on avait Merlin, Arthur, etc. On avait d'autres textes avec l'histoire du Graal, etc. Thomas Malory reprend un petit peu tout ça et il donne une cohérence à l'histoire avec un milieu, un début, voilà, un début, un milieu, une fin, dans le bon sens d'ailleurs. Donc, ce qui fait que c'est aussi aujourd'hui pour nous beaucoup plus, on va dire, facile à lire, au sens où bah, c'est une histoire complète, en fait. Avec, ça va de la conception d'Arthur jusqu'à sa disparition. Ce qui veut dire aussi que bah, toutes les réécritures qui ont suivi, en tout cas une grande partie, se sont surtout inspirées du texte de Malory parce que bah, il y avait l'avantage d'avoir beaucoup
dans plus les de pays temps. Anglo-saxons, pas en France, qui était où c'était pas connu, Malory n'était pas hyper connu.
Disons qu'en France, ça revient directement ouais. Par justement toutes les réécritures qu'il y a eu ensuite, ouais. Les films, etc.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, mais juste un truc hein, pour finir ce Moyen Âge. Après, je passe, on va en parler justement des premières réécritures contemporaines. Justement, en fait, il y a quand même une grande différence, par contre, entre le Moyen Âge. Et l'époque contemporaine, c'est que pour le coup, le mythe arthurien au Moyen-Âge, il se diffuse exclusivement en Europe occidentale, notamment en gros, nord de la France et tout, enfin Angleterre, Allemagne aussi, avec Wolfram von Eisenbach, hein, le Parsifal qui va être repris après par Wagner, mm-hmm. Voilà, Italie un petit peu, tout. Mais généralement, quand même, ce qui est centré, c'est centré sur le nord de la France, voilà, et puis monde anglo-normand, quoi. Et ça se diffuse beaucoup dans les milieux chevaleresques, en fait. Dans les autres milieux, c'est plus compliqué à savoir, mais je sais que déjà l'Église, en fait, déjà ils aiment pas trop le mythe arthurien. Et dans les milieux populaires, bon, on n'a pas de preuves, mais a priori, c'est pas une littérature qui les concerne. Hein. Je veux dire, ça met pas quelque chose, ça met pas les paysans ou les artisans en avant, hein, les textes, voilà.
C'est-à-dire c'est quand on regarde chez Chrétien de Troyes, par exemple, qui a été beaucoup diffusé en France, mais enfin la représentation des paysans chez Chrétien de Troyes. Ouais,
c'est des gros bœufs, quoi, en fait.
Ah là, bah voilà, ah, c'est à peine si on les distingue des animaux, quoi.
Ça reprend les préjugés de classe, en fait, hein, des chevaliers, hein, tout, concrètement, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, il y a une énorme différence avec aujourd'hui. Aujourd'hui, le mythe arthurien, il est diffusé sur plusieurs continents, en fait. Hein. Vous avez des versions japonaises depuis les années 70, vous avez des versions américaines, ça, on va en parler, il y en a un paquet, en fait. Hein. C'est vraiment le pays le plus arthurien au monde, de très loin, ce sont les États-Unis. Et évidemment, ça se diffuse en Europe très largement, et ça se diffuse dans toutes les couches de la population, en fait. Hein. Je le dis souvent, je le répète, hein, mais je pense pas qu'il fallait être un aristocrate, en fait, pour voir des épisodes de Kaamelott, en fait. Hein. Donc, ou alors, j'ai pas compris. Mais le truc, c'est que, voilà. Donc, là, vous avez quand même une énorme différence, en fait. Hein. C'est pour ça, moi, il y a quand même un truc que j'ai envie de dire, c'est qu'en fin de compte, si on regarde bien, le mythe arthurien est plus un mythe contemporain qui n'était un mythe médiéval. Au Moyen-Âge, vous avez avoir des mythes très des mythes concurrents qui sont nombreux, hein. Vous avez le mythe d'Alexandre le Grand, en fait, hein, qui se diffuse beaucoup. La matière de France aussi, avec Charlemagne, Roland, etc. et tout. Et c'est les mythes qui sont concurrents, en fait, hein. Donc, parfois, on essaie de les regrouper, hein, notamment avec Perse Forest, on fait le lien entre Alexandre le Grand puis Arthur, en fait.
Hein, toujours un petit peu bancal, en
voilà,
plus.
C'est moins qu'on puisse dire. C'est, voilà. Et voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, en fait, hein, il y a une énorme diffusion contemporaine, et cette énorme diffusion contemporaine, ça passe justement, ça, je vais laisser la parole à Justine, ça passe notamment par la culture populaire américaine, notamment par une des premières grandes œuvres arthuriennes contemporaines. C'est donc l'œuvre de Mark Twain.
Effectivement, alors on en a en fait des réécritures, on en a globalement tout au long de notre histoire. La légende arthurienne passe un peu de mode hein, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle parce que bah on a d'autres priorités, voilà. Mais au XIXe siècle, ça revient vraiment en force toute cette fascination pour le Moyen Âge. Et donc on va entre guillemets redécouvrir le roi Arthur, réécrire des nouvelles versions. Et c'est là qu'entre en scène notamment Mark Twain. Qu'on connaît avec les aventures de Culbert et Finn, par exemple, ou voilà des choses comme ça, Tom Sawyer, qu'on connaît beaucoup en France pour ça, mais qui a connu aussi un gros succès avec un texte qu'il écrit, enfin qu'il publie en 1889, donc intitulé Connecticut Yankee in King Arthur's Court, donc traduit un Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur, qui est un roman absolument fabuleux, qui se centre sur donc un Américain du Connecticut. Qui s'appelle Hank Morgan, hein, le nom n'est pas du tout choisi au hasard, bien entendu, qui est un Américain, j'ai envie de dire, tout ce qu'il y a de plus typique, et un jour il se reçoit dans une usine, je crois, il reçoit un coup sur la tête, et il se retrouve, il se réveille au Moyen-Âge, en 528 exactement, à la cour du roi Arthur. Donc au début, bien entendu, il croit qu'il rêve, ensuite il croit que tout le monde est fou et qu'il est dans un asile, mais il va finir par se rendre compte qu'il a voyagé dans le temps, et il va décider de faire sa place et d'essayer de survivre à la cour du roi Arthur. Donc en bon Américain du 19e siècle qui se respecte, il va expliquer la vie à tout le monde, si vous voulez. C'est un personnage extrêmement sûr de lui et qui a l'avantage de connaître énormément de choses, c'est-à-dire qu'il travaillait dans une usine, il vient d'une famille de garagistes, etc. Donc il ne va pas juste rester et essayer d'être un esclave parmi d'autres à la cour du roi Arthur, mais il va petit à petit se faire sa place aux côtés du roi, et il va révolutionner en fait l'ensemble de la cour arthurienne. Donc on a une relecture vraiment satirique ici et parodique de la légende arthurienne, et on va voir le personnage de Hank Morgan faire sa place, critiquer ouvertement Merlin qui pour lui est un simple charlatan, ce qui n'est pas totalement faux, et pendant ce temps-là, Hank va décider d'introduire tout ce qui selon lui est nécessaire hein, à la vie quotidienne. Donc il va développer l'hygiène, ça c'est pas trop mal. Il va développer le chemin de fer, parce que c'est quand même important. Et il va développer la publicité. On pourrait peut-être s'en passer, ça, au 6e siècle.
Il va transformer les chevaliers en homme sandwich.
En homme sandwich, hein. Exactement, parce que bon, faut admettre que pour lui, les chevaliers, ça sert un petit peu à rien, mais aussi parce que c'est une aristocratie. Hein. Hank, c'est un homme du peuple américain typique. Donc, l'aristocratie chevaleresque, il trouve que juste c'est des blaireaux. Donc, il va tout faire pour les rendre utiles à sa cause, et s'il peut les ridiculiser par la même occasion, tant mieux. Donc voilà, je vous dévoile pas la fin, même si bon, le texte a 150 ans, donc on pourrait estimer que le spoiler est passé, mais voilà, il va vivre un certain temps à la cour du roi Arthur. Vous vous doutez qu'en révolutionnant tout, il se fait pas que des amis, notamment Merlin, qui n'apprécie pas trop de voir prendre sa place, globalement. Mais voilà, et donc c'est un texte qui confronte une vision contemporaine, une vision de la fin du XIXe siècle en l'occurrence, à la représentation qu'on a du roi Arthur et de toute sa cour, etc. C'est un texte qui connaît un immense succès et qui, globalement, depuis sa publication, a été mis en scène et a été adapté au cinéma. Alors, j'ai arrêté de compter à une quarantaine d'adaptations.
Ouais.
Voilà, je vous en ai mis quelques-unes ici. Pour avoir un petit peu une idée. Donc je crois que la première date de... Enfin, la première qu'on ait conservée, en tout cas, date de 1921, avec le même titre, hein, le Connecticut Yankee in King Arthur's Court. Vous avez ensuite une adaptation en 1931, traduite par ce magnifique titre, Le fils de l'oncle Sam chez nos aïeux. J'aime beaucoup ce titre.
Mais ça c'est, beaucoup, c'est un titre qui est intéressant, parce que vu qu'en France... ça veut tout dire, c'est qu'en France, on connaît tellement mal à l'époque le mythe arthurien qu'en fait, ils ont changé le titre parce que ça aurait pas parlé au public. Quoi,
c'est ça. Ouais, ce qui compte, c'est pas tant que le personnage arrive à la cour du roi Arthur, c'est qu'il arrive au Moyen-Âge. c'est globalement une vision qu'on aurait avec les visiteurs, si vous voulez.
C'est celui qui est en haut, en fait.
Alors, c'est tout en haut à gauche. Ouais. Voilà,
C'est avec, je sais plus quel acteur très connu, Will Rogers, je sais plus comment, enfin, c'est un acteur très
connu. C'est Bing Crosby dans... Ah non, c'est celui non. De 39, celui-là.
Oui, de 49.
De 49, oui. Du coup, oui, c'est celui-là. Mais du coup, enfin, c'est y a celui-là, il y en a un 39, il y en a un 49, il y a un film qui est adapté aussi. J'ai pas dû vous le mettre là, je crois. C'est un cosmonaute chez le roi Arthur qui date de 79 parce que, en 1979, on est dans toute la vague qui a suivi, hein, la conquête spatiale, tout cet engouement dans le monde entier, notamment aux États-Unis pour la conquête spatiale. Donc, on prend le texte de Mark Twain et on l'adapte. À chaque époque. Donc on va avoir une version avec un cosmonaute. On a une version russe aussi, je ne vais absolument pas vous lire le titre parce que je ne parle pas russe.
C'est une version soviétique en plus.
Pardon, oui.
Non, mais c'est important. C'est important, c'est une version de 88 et le roman de Twain était hyper lu en fait, ce roman-là, pour des raisons politiques, parce qu'en fait, bon, je ne vais pas dévoiler le bouquin, mais c'est un bouquin très politique qui peut être aussi très critique vis-à-vis des États-Unis.
Oui.
Et en fait, c'est un bouquin qui est très lu en Union soviétique, en fait, hein, ce roman-là. Quoi. Donc, il y a un film arthurien soviétique, sachez-le. Voilà, donc,
sur la cour du roi Arthur.
Et super long et super chiant. Mais c'est
leur version, quoi. Voilà. Mais on a eu d'autres interprétations. On a une version où c'est un enfant un enfant toujours américain, hein, c'est pareil, pure souche, qui joue au baseball, qui mâche des chewing-gums, enfin, dans tous les clichés, qui se retrouve aussi à la cour du roi Arthur, donc c'est le Kid et le roi qui date de 95. Vous avez Arbalète et Rock'n'Roll aussi. C'est les titres français, hein, ils font ce qu'ils veulent. Globalement, les titres anglais, c'est toujours plus ou moins...
Bienvenue à Arbalète et Rock'n'Roll, le nouveau film du cinéma pâté.
Les films en version états-unienne, c'est toujours plus ou moins un quelque chose ou un quelqu'un à la cour du roi Arthur. En France, on adapte. Voilà, on a le Kid et le roi, Arbalète et Rock'n'Roll. Un pareil, hein, qui est magnifique aussi, le Chevalier hors du temps. C'est celui que vous voyez avec Whoopi Goldberg, à peu près au milieu. Voilà, titre anglais, A Knight in Camelot, un chevalier à Camelot. Sauf que apparemment, hein, on est en 98, on doit considérer que Camelot, c'est peut-être pas assez clair. Dire que Whoopi Goldberg, c'est un chevalier, c'est peut-être bizarre aussi. Donc ouais. Le chevalier hors du temps, c'est très vague, mais bon. Ça a plutôt pas mal marché, en plus. Où là, c'est donc non seulement une femme qui se retrouve projetée au Moyen-Âge, une femme noire, interprétée par Whoopi Goldberg, et en plus elle est scientifique. Tant vous dire qu'ils essayent de la brûler très rapidement, hein, dans le film quand même. Donc voilà, vous avez aussi une autre version qui date de 2001, qu'on voit en bas à droite, qui s'appelle Black Knight, qui a été traduit par le Chevalier Black. Parce qu'encore une fois, ce qui est important, c'est qu'il soit noir, hein, dans l'histoire. Où là, c'est encore une comédie un peu plus lourde, hein, de toute façon, on est avec Martin Lawrence, on se doute que voilà, on n'est pas dans un grand film intellectuel, mais on a plein de versions comme ça. Il y a une version des Looney Tunes aussi qui ont fait ça. Il y a une version de Mickey aussi qui se retrouve projetée soit en étant assommé, soit parce qu'il rêve, on ne sait pas trop, mais il se retrouve projeté à la cour du roi Arthur et il va essayer de survivre, de s'adapter et d'adapter la cour à ses propres ambitions aussi.
Et le nombre de super-héros qui sont retrouvés à la cour du roi Arthur dans le même... Voilà, il y en a un paquet aussi dans les comics, mais je pense que quasiment tous les super-héros les plus majeurs sont arrivés à un moment ou à un autre à la cour du roi Arthur. Il y a Batman, Superman, Iron Man, enfin voilà, il y en a un paquet, quoi. Donc à chaque fois, c'est toujours le même. C'est vraiment le truc, ils reprennent donc plus ou moins...
C'est ça.
L'histoire de base de Mark Twain, en la modifiant quand même, parce que parfois on enlevant même l'aspect politique... qu'on peut retrouver, parce que même le truc de Martin Lawrence, c'est un peu cucu, en effet, mais il y a des allusions, notamment aux émeutes de Los Angeles, des trucs comme ça et tout, donc il y a des aspects aussi un peu politiques qui sont assez intéressants. Quoi. Donc,
Puis vous doutez que quand on a des représentations avec justement Martin Lawrence ou Whoopi Goldberg, il va y avoir des thématiques qui tournent aussi autour de la question de l'esclavage, parce que voilà, comment on représente la cour du roi Arthur, comment un personnage noir est accueilli dans ce monde-là, sachant que chez Mark Twain déjà, hein, donc 1889, on a le personnage de Hank, quand il se retrouve projeté, la cour arthurienne considère que c'est un ogre parce qu'il n'est pas habillé comme eux. Voilà, donc c'est quand même un petit peu radical, mais on a déjà ce premier décalage donc, qui peut ensuite être adapté, j'ai envie de dire presque très facilement, à tous les contextes. C'est comme ça qu'on a des enfants, des femmes, des scientifiques, des cosmonautes qui se retrouvent tous à la cour du roi Arthur. Et généralement, ça se passe très bien.
Ce qui est intéressant aussi avec Twain, c'est que, enfin, Mark Twain n'est pas le seul à faire des. Vraiment, les États-Unis sont vraiment fascinés par le mythe arthurien. Alors après, encore une fois, il y a une lecture politique à faire de Twain qui est importante parce que quand il critique les chevaliers, en fin de compte, il critique à la fois, on comprend assez rapidement, c'est dit quasiment explicitement, il critique l'Angleterre victorienne, en fait, voilà. Donc,
oui, Twain, c'est pas le plus subtil, hein, dans
voilà.
Ses énonciations.
Et parce qu'à l'époque, les Anglais sont fascinés par le mythe arthurien, ils l'ont redécouvert au début du 19e siècle en rééditant Mallory, puis voilà, c'est devenu une espèce de truc, c'est devenu une espèce de truc un peu très conservateur aussi, voilà, où c'est, la chevalerie sert de modèle à la, voilà, à la noblesse anglaise et tout, à l'aristocratie anglaise.
Ouais, il y a une certaine nostalgie d'un temps qui était mieux, plus glorieux.
Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Twain, enfin, les États-Unis, il y a d'autres pays, des gens aux États-Unis vont réagir d'une autre manière. C'est que Twain, il va se moquer, et puis d'autres vont dire, en fin de compte, prendre la chevalerie comme modèle, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Donc, on va faire la même chose que font les Anglais. Alors, les Anglais s'en servaient beaucoup dans les grandes écoles anglaises, voilà, en disant, voilà, notamment à Eton et choses comme ça, devenez, il disait aux jeunes aristocrates, devenez un peu comme les nouveaux chevaliers arthuriens. Aux États-Unis, il y a des pédagogues qui vont dire, on va faire la même chose, mais on va diffuser ça de manière plus large, on va diffuser ça notamment auprès des jeunes de la classe moyenne et tout. Donc, vous avez des pédagogues, notamment un qui est un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle William Forbush, qui, vraiment quelques années après la sortie du roman de Twain, dans les années 1890, va fonder une espèce de groupe. Hein, là, vous avez une photo de ces groupes, en fait, hein, donc, qui s'appelle les Chevaliers de la Table Ronde, où en fait, on va rassembler des jeunes dans une espèce de local, en fait, hein, et ils vont chacun prendre un nom d'un chevalier arthurien. Ils vont avoir un adulte, hein, vous voyez ici l'adulte, hein, il est ici, donc voilà, il est là. Vous allez avoir un adulte, en fait, qui va superviser, en fait, hein, donc ce groupe, l'adulte, il va se nommer le Merlin, en fait, voilà, du groupe. Et les adultes, voilà, les mômes, en fait, vont se réunir, ils vont se réunir autour d'une table, s'ils ont une table ronde c'est très bien, mais sinon ils se réunissent autour d'une table n'importe laquelle, en fait ils s'en foutent, hein. Et puis ils élisent leur roi, c'est assez important, ils élisent leur roi Arthur, donc alors, c'est à partir de ce moment-là, hein, ça a commencé un peu avant, mais que ça se développe beaucoup à ce moment-là, qu'il y a l'idée que la table ronde aux États-Unis est une espèce de, enfin devient une espèce de métaphore de la démocratie parlementaire américaine et du melting pot américain.
C'est un roi élu.
C'est un roi élu et la table ronde est accessible à tous, enfin à tous. Dans les années 1890, voilà, sans ton nom, c'est sauf les hommes blancs de la classe moyenne, voilà. Donc petit à petit, ça va s'ouvrir socialement. Bon, alors, les noirs n'y pensent même pas et les femmes vont avoir leur groupe, mais séparés. En fait, c'est les demoiselles d'Avalon. Elles vont apprendre la couture. Voilà, c'était voilà, c'était.
C'est une belle époque.
Et je n'irai pas jusque là. Et le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que ces groupes-là aussi, leur but, ça va être de devenir un peu d'espèce de groupe philanthrope. Donc en fait, ils vont les enfants vont faire des bonnes actions dans les rues, aider les grand-mères à traverser. Et oui, les groupes qui font des bonnes actions, etc. et tout, hein, donc, eh ben, ça vous rappelle quelque chose, hein, ça vous rappelle les scouts, et ben, ce n'est pas un hasard, parce qu'en fin de compte, Baden-Powell, parce que les groupes Forbush vont avoir un gros succès, hein, donc il va y avoir, paraît-il, voilà, il y a eu des chiffres qui ont été avancés de 200 000 adhérents, voilà, des choses comme ça, donc c'est assez énorme, en fait, hein, donc, Baden-Powell, qui est le fondateur des scouts, il va voir ça, il va dire, ça, c'est une bonne idée, en fait, on va créer aussi des groupes comme ça, en fait, de jeunes et tout, donc je vais appeler ça les scouts. Et bon, il n'y a pas d'allusion arthurienne directe, sauf que, en fait, quand on lit les textes de Baden-Powell, il fait des allusions au mythe arthurien, et le premier camp scout, hein, qui a lieu en 1907, je crois, et bien tout bêtement, le thème, c'est le mythe arthurien. Donc vous voyez, il y a vraiment cette espèce d'idée que, voilà, la chevalerie devient une espèce de stéréotype, quelque part, de la masculinité, en fait, voilà, c'est le good guy, en fait, américain, c'est aussi un chevalier. Donc il y a vraiment cette idée-là qui se développe. Ouais. Et c'est pour ça aussi que, en parallèle du roman de Twain, en fait, hein, qui est très adapté, il y a aussi l'idée, en fait, hein, que voilà, la chevalerie devient une espèce de modèle, en fait, hein, pour aux États-Unis, ce qui fait que vous allez avoir de très nombreuses œuvres de culture populaire qui vont parler de la chevalerie, encore plus du mythe arthurien. Et la grande œuvre qui parle de ce mythe-là, en fait, hein, qui va avoir une énorme influence, c'est Prince Valiant, hein, donc Prince Vaillant, la bande dessinée d'Harold Foster qui commence à être publiée en 1937, donc une fois par semaine, il y a une planche par semaine, là vous avez un exemple, hein, donc c'est un dessin, voilà, absolument, voilà, c'est un dessin classique, mais magnifique, hein, Foster, il faisait des planches comme ça, une par semaine, donc c'était vraiment, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Prince Vaillant est toujours publié, en fait, hein. Il y a toujours une page de Prince Vaillant par semaine, hein. C'est la BD a 83 ans, en fait, voilà, donc c'est une BD qui a vraiment, et qui a une énorme influence sur le monde de la BD, hein. Donc il y a beaucoup d'auteurs de comics comme Jack Kirby qui vont s'en inspirer. Et Prince Vaillant, en fait, va après devenir une espèce de modèle, en fait, du mythe arthurien américain, dans lequel vous avez un personnage qui est un jeune chevalier inventé pour l'occasion, en fait, un Vaillant, mais en fait, quand on regarde bien, on se rend compte que c'est une espèce de Perceval, en fait, voilà, ouais. Voilà, donc pas plus dégourdi que celui de Kaamelott, en fait, hein, faut être clair. Donc,
c'est
voilà.
Pas dur en même temps.
Ouais, c'est pas dur, mais voilà. Mais, et Valéant, mais sauf que c'est un type qui vient vraiment du peuple, en fait, hein, des couches populaires de la population, et qui monte les échelons petit à petit, en fait, voilà.
Élevé par le peuple.
Élevé par le peuple. Et ça, c'est vraiment, il y a vraiment l'idée du self-made man qui est très important. Voilà, c'est vraiment très, très américain, donc quoi.
C'est ça la grosse, enfin, une grosse différence dans l'utilisation du mythe arthurien, en Europe ou, aux États-Unis. C'est qu'aux États-Unis, on va vraiment beaucoup insister sur cette idée, justement, tu disais, hein, du self-made man, avec que ce soit Twain ou avec justement Prince Vaillant, avec quasiment toutes les réécritures, même des super-héros.
Ouais. Bah, même le film avec Guy Ritchie, bon, qui était voilà, qui a la qualité qu'on voilà, qui a une certaine qualité. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le film de Guy Ritchie, là, c'est, je pense qu'on a l'aboutissement de ce phénomène-là, parce que dans ce film-là, celui qui veut devenir Arthur, il vient de la rue, en fait, voilà, c'est carrément un voyou de rue. Et puis il y a même des scènes quasiment Rocky.
Il est élevé dans un bordel, voilà. Il grandit, c'est la mafia, enfin il gère la petite mafia locale.
Il y a vraiment des scènes à la Rocky, quoi. C'est vraiment dedans, enfin bon, c'est pas très subtil parce que c'est Guy Ritchie, donc là c'est un peu les métaphores.
C'est pas le Guy Ritchie de la belle époque, c'est ça qui est dommage.
Mais alors justement pour montrer, il y a toute une vague de films arthuriens qui a été fait dans les années 50. On va passer, si vous voulez bien, l'extrait numéro 1, parce qu'en fait entre 53 et 54, il y a trois grands films arthuriens qui vont être réalisés. Donc l'extrait numéro 1. S'il te plaît. Et là, vous avez un extrait de Des Chevaliers à table ronde de Richard Thorpe. Et là, vous avez Lancelot, donc c'est qui arrive. Là, c'est.
Where are you going? Home. Was your village left standing by Modred's men? No. But if I'm to starve to death, I'd sooner starve to death there than here. I love this horse like a brother. I would kill him with my own hands, and you could eat his flesh if it would give you half the courage of the man you're deserting. Ah, keep your horse.
Pas si le cheval va l'accompagner dans la tente, hein. ça sera pour.
C'est comme un frère pour lui.
Alors bon, là je sais pas, c'est pareil, je pourrais déblatérer des heures là-dessus, c'est qu'il y a quand même pas mal de références, hein, de parallèles qui sont faits entre le western, hein, le chevalier et le cowboy. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce film-là, si vous regardez bien, ça reprend en fait un épisode très connu de l'histoire américaine, enfin très connu pour les Américains en l'occurrence, hein, c'est notamment l'épisode de Valley Forge. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ce film-là, vous avez le roi Arthur et Lancelot qui combattent les forces de Mordred. Mordred, c'est vraiment les aristocrates en plus qui sont plus. Mordred est joué par un acteur anglais, hein, pour forcer un peu le trait, alors que Lancelot, voilà, c'est joué par un acteur américain et tout. Donc il y a vraiment d'un côté, donc Mordred, c'est les aristocrates qui veulent garder le pouvoir, et du côté d'Arthur, c'est vraiment les hommes du peuple, en fait, voilà, ils sont pas en grande forme et tout, et puis bon, après, ça va s'arranger, hein, voilà, mais ils sont pas en grande forme, et donc ils sont face aux troupes de Mordred, il fait froid, c'est l'hiver et tout, et il y en a qui veulent abandonner, et puis Lancelot, il dit aux gars, non, on va rester, voilà, sinon, je bouffe mon cheval, y a pas de problème et tout, voilà, donc, fais pas de mal à ton cheval, on va rester, on va crever de froid, c'est mieux. Et en l'occurrence, donc je vous dis, c'est clairement un clin d'œil à un épisode très célèbre de l'histoire de la Révolution américaine, de la guerre d'indépendance, c'est l'épisode de Valley Forge, hein, où Washington, en pleine retraite face aux Anglais, il s'est réfugié, il a passé un hiver dans un endroit où l'armée continentale, en fait, a connu de nombreuses désertions, et Washington a fait non, faut absolument qu'on reste, faut qu'on continue la lutte. Donc, il y a vraiment, voilà, pour le coup, c'est comme tu dis, c'est une grosse différence, hein, entre les usages anglais du mythe, les réécritures anglaises contemporaines du mythe arthurien et les réécritures américaines qui popularisent en fin de compte le mythe, en fait, qui lui donnent un aspect démocratique qu'il n'avait pas avant. Vraiment, littéralement, quand vous voyez plein d'adaptations récentes, hein, vraiment le mythe de la table ronde, c'est dit parfois explicitement, en fait, hein, la table ronde, c'est la démocratie, en fait, voilà. Donc chacun est assis au même niveau et tout, ce qui n'est pas le cas à l'époque médiévale. Hein.
Ah non, ça n'a aucun sens au Moyen-Âge.
Voilà, vraiment aucun sens. La table ronde, ils sont 12, hein, c'est une allusion à la table des apôtres et tout, voilà. Donc, c'est...
Et puis quand la table ronde, on va dire, apparaît dans les textes, donc chez Vasse, dans le roman de Brut, on nous dit bien que le roi Arthur utilise une table ronde offerte par son beau-père Léodagan, beau cadeau de mariage, pour que ses chevaliers, les barons qui sont à sa cour, soient égaux. Voilà. Mais on nous dit bien que ce sont les chevaliers, qui sont égaux. Ouais. Arthur, il est égal avec personne, si vous voulez. Hein. C'est le roi. Donc lui, il est toujours au-dessus de ce pouvoir. Et c'est ensuite une mise à niveau des hommes qui sont autour. Quand on a ensuite toutes les réécritures qui passent derrière, et pour arriver justement à ce que tu disais dans le film de Guy Ritchie, on a une vision, au contraire, de démocratisation à l'extrême qui fait que Arthur, c'est vraiment un mec parmi d'autres, c'est même pas un roi. C'est,
ouais, voilà. Il y a vraiment l'espèce de melting pot aussi, tu vois, parce qu'en plus, la table ronde s'ouvre. Là, par exemple, dans le film de Guy Ritchie, il y a un acteur, en fait, un acteur africain, donc voilà, ça représente l'ouverture aux Afro-Américains.
Toujours pas de femme, mais on progresse.
Il y a toujours pas. Ah, ça dépend des versions. Tu vas avoir chez Guy Ritchie, non, il n'y a pas de femme.
Chez Guy Ritchie, Kay devient une femme, par contre.
Voilà.
Ça devient une prostituée.
Voilà. Bon à savoir. Donc, mais en fait, toi, on sait pas parce que vu qu'il avait prévu de faire des suites, bon, qui n'auront pas lieu vu que ça a fait un flop, le film a fait un flop. Le truc, c'est que.
Il voulait faire 6 films, hein, quand même.
Et il voulait faire 6 films. Peut-être qu'on aurait vu des femmes après. Mais ce que tu as par là, c'est que tu vas avoir dans les réécritures, en fait, dans certaines réécritures, notamment dans les BD, dans les comics et tout, tu vas avoir en effet les tables rondes où tu vas avoir des femmes.
Dans
en
les
fait.
Séries télé aussi. Voilà,
dans les séries télé aussi.
Série Merlin,
voilà.
Etc.
Voilà. On va passer aussi à une adaptation qui, je sais, était chère, en fait, hein. C'est l'adaptation de T.H. White, en fait. Alors, que vous connaissez sans connaître, en fait, hein, parce que c'est inspiré, ben, je vais te laisser t'en parler.
Tout à fait.
Mais voilà.
Effectivement, T.H. White, qui est un auteur anglais. Oui, très bien. Qui est un auteur anglais né en Inde, dont le nom ne nous dit pas grand-chose en France. Il faut dire que son œuvre est très peu traduite. Et pourtant, je pense que vous connaissez au moins son œuvre phare, qui a été adaptée au cinéma en 1963, notamment par Disney, sous le titre de Merlin l'Enchanteur. Rassurez-moi, est-ce que vous connaissez Merlin l'Enchanteur ?
Oui !
Voilà, foule en délire et tout ça, bon, d'accord. Donc effectivement, Merlin l'Enchanteur, avant d'être un dessin animé, donc qui est diffusé le 25 décembre, hein, c'est un film de Noël, hein, 25 décembre 63, réalisé par Wolfgang Reitherman, mais pour les studios Disney, c'est adapté d'un roman donc de l'anglais T.H. White. Le roman s'appelle The Sword in the Stone, donc l'épée dans la pierre, littéralement. C'est aussi le titre de Merlin l'Enchanteur en version originale. Hein. C'est un roman qui en fait date de 1938 pour la première version. White a beaucoup réécrit. Et White, c'est un prof d'anglais, un peu, voilà, il a fait des études classiques, etc. Grand humaniste, mais un jour, il s'ennuie chez lui, globalement, et il prend un livre de sa bibliothèque. Et ce livre, c'est Le Mortel d'Arthur de Thomas Malory, le texte du 15e siècle qu'on a évoqué tout à l'heure. Il relit le texte, il se rend compte à quel point ce texte est fascinant, parce qu'il y a tout dedans. Il y a du drame, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a des personnages humains très forts, très développés, etc. Et on est dans un texte du 15e siècle. Donc il se dit, bah, je m'ennuie, je vais réécrire ce texte, version 20e siècle. Sauf que le texte commence avec la conception, la naissance d'Arthur, et ensuite on passe directement au moment où il est couronné roi. Et globalement, il nous manque toute sa jeunesse. Donc White se dit, pour réécrire, je vais d'abord ajouter un passage sur l'enfance d'Arthur. Sachant que la tradition d'écrire les enfances des grands héros, ça se fait beaucoup au Moyen-Âge. S'il y a une enfance d'Arthur qui a été écrite, on ne l'a jamais conservée. Donc voilà, on va dire que White est potentiellement le premier en 1938 à écrire une enfance, une jeunesse d'Arthur, où il nous explique, globalement, hein, je fais version très synthétique, mais il reprend tous les textes médiévaux en expliquant que Arthur est né grâce à la magie de Merlin qui a aidé Uther Pendragon, etc., blablabla, mais que ensuite le jeune Arthur a été déposé, abandonné, si vous voulez, auprès d'un seigneur local pour qu'il soit élevé parmi le peuple. Et c'est comme ça qu'il va décrire toute la naissance, toute l'éducation du jeune Arthur. Comme un grouillot normal, hein, puisque c'est un enfant adopté, donc il n'a pas de statut privilégié, il est élevé presque à la dure, dans une famille aimante, mais à la dure, jusqu'au jour où il rencontre un vieillard barbu, un peu mystérieux dans la forêt. Comment ?
C'est Gandalf.
Tu veux que je te dise tout ce que Gandalf doit à Merlin ?
Oui. Et 3 heures plus tard.
Voilà. Mais donc, effectivement, il rencontre Merlin. Merlin qui, dans l'œuvre de White, a la particularité de vivre à l'envers. C'est-à-dire qu'il remonte le cours du temps, c'est un peu compliqué. Mais donc, Merlin, lui, a parfaitement conscience de la destinée de ce jeune gamin que tout le monde appelle wart en anglais, ce qui veut dire verrue. Ça a été traduit en français par moustique. Ça limite un petit peu mieux, je pense. Un peu moins péjoratif. Et donc, il a parfaitement conscience que ce jeune gamin est promis à une grande destinée. Donc, Merlin va prendre sous son aile le jeune Arthur et va lui faire toute son éducation pour qu'il soit prêt, une fois atteint l'adolescence, globalement, à devenir le roi de toute l'Angleterre. Alors, dans Merlin l'Enchanteur, si vous vous souvenez, on a plein d'épisodes où Merlin transforme Arthur en plein d'animaux différents pour lui faire vivre des aventures, pour voilà, il le transforme en poisson, en écureuil, etc. Voilà, c'est Disney, c'est plein de magie. Ok. En fait, dans le texte de White, on a déjà quasiment toutes ces métamorphoses, mais elles ont, c'est pas juste des divertissements, elles ont un rôle politique. En fait, Merlin va transformer Arthur en différents types d'animaux, on nous dit aussi en plantes et en minéraux, pour lui faire découvrir le monde autour de lui, et surtout pour lui faire découvrir différents types de gouvernements, parce que les animaux ont des gouvernements particuliers. Donc il va le transformer en oiseau de proie pour rencontrer un fonctionnement d'oiseau qui fonctionne un peu comme une armée, si vous voulez. Il le transforme en fourmi pour découvrir de l'intérieur un régime politique qui, globalement, est très inspiré des nazis. Hein, là, White a écrit un peu plus tard. Il a écrit tout ce texte-là en 1938 et dans les années 40. Dans les années 40, toute l'Europe est un petit peu préoccupée, si vous voulez. Donc, on ressent clairement toute cette écriture dans le texte de White. Et le but, c'est que le jeune Arthur découvre différents types de gouvernements pour qu'une fois adulte, il puisse choisir le meilleur gouvernement possible. Donc, il y a l'idée que si Arthur est le grand roi exceptionnel qu'on connaît aujourd'hui, c'est parce qu'il sait ce qui sera le mieux pour lui, pour le peuple, pour la postérité, etc. Alors, je crois qu'on avait un extrait.
Ouais. On a un extrait.
Ouais, parce que j'ai parlé d'abord de Merlin Enchanteur.
Ouais, bah on va.
On reviendra en arrière.
Si, on peut passer l'extrait 2. Ouais, on va comme ça.
So at last the miracle had come to pass in that far off time upon New Year's Day. And the glorious reign of King Arthur was begun.
I can't be a king, Archimedes. I don't know anything about ruling a country.
I told you to leave the thing in the stone, boy.
I'll run away. That's what I'll do. They'll just have to get somebody else.
Better take the side door, Wart. Out the side door.
Hail, King Arthur!
There's another door. Over there. Over there. Come on. Come on.
Long live King Arthur!
Looks like we're surrounded, boy.
Oh, Archimedes, I wish Merlin was here.
Merlin! Merlin!
Oh, Merlin, you're back from Bermuda?
Bermuda? Yes, back from Bermuda and the 20th century. And believe me, you can have it. One big modern mess. Alakazam!
I've been an awful pickle. I'm king.
Ooh, he pulled a sword from the stone.
Ha-ha! Of course, of course. King Arthur and his knights of the round table.
Round table?
Oh, would you rather have a square one?
Oh, no. Round will be fine.
Boy, 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 you'll become a great legend. They'll be writing books about you for centuries to come. Why, they might even make a motion picture about you.
Motion picture?
Oh. that's something like television. Without commercials.
Vraiment patriotique là-bas. Hein. Donc effectivement, on a là la scène de fin, vous l'avez vu, hein, de Merlin l'Enchanteur, où on retrace un petit peu le parcours de ce personnage avec son éducation par Merlin et le fait que, au bout du compte, Arthur, voulant aider son frère, se retrouve à retirer une épée plantée dans une enclume, sauf que sur l'épée était gravé, celui qui retirera l'épée de l'enclume se trouvera à être le roi de toute l'Angleterre. Donc, Voilà, on a l'idée d'un personnage élu par le destin pour élu pour le destin par le destin pour pouvoir régner. Donc là, on voyait. Tu peux le remettre juste avant.
Ah, ah voilà. Je voulais mettre ça.
Non, mais très bien, ça me va. Voilà. Donc on a vu un petit peu passer le texte de White. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le texte de White, c'est 5 volumes en fait. Merlin Enchanteur s'est adapté du premier tome, celui vraiment sur l'enfance, la jeunesse d'Arthur. Et les tomes suivants ont aussi connu un grand succès, ce qui fait que ça a été très rapidement aussi adapté, alors cette fois pas directement en film, mais, c'est vrai qu'on a un ordre un peu improbable, c'est moi, ça a été adapté très rapidement en fait, en 1960, en comédie musicale, par deux créateurs, hein, Alan J. Lerner et Frederick Lowe, qui ont acheté les droits de la suite du texte de White pour... Ils n'ont pas pu acheter le premier tome parce que Disney avait acheté, en fait, hein, tout simplement. Et ils ont décidé de mettre en scène une comédie musicale sur le roi Arthur. Cette comédie musicale s'appelle Camelot. Donc elle commence en 1960 à Broadway. C'est un succès absolument fabuleux. Vous aurez peut-être reconnu à gauche, bien entendu, Julie Andrews dans le rôle de Guenièvre. Voilà. Donc Mary Poppins.
Mary Poppins.
Voilà. Et à droite, Richard Burton, que je ne présente pas.
Marc-Antoine.
Oui, bah aussi, voilà. Mais si on fait toute sa filmographie.
Oui, c'est vrai.
Mais donc, ça connaît un immense succès aux États-Unis. Ils font une tournée hein, dans tous les États-Unis, etc. Mais le succès, en fait, de la comédie musicale ne va pas s'arrêter à la sphère purement culturelle. Tout simplement parce que, voilà, là, vous aviez une autre version avec Richard Harris qui prenait le rôle d'Arthur. J'avance de quelques années, nous sommes. En novembre 1963, le 22 novembre 1963 plus exactement, date de l'assassinat de Kennedy. Vous allez me dire, mais quel rapport avec le Schmilblick ? Peu après l'assassinat de Kennedy, son épouse, Jackie Kennedy, va donner une interview à un journaliste qui s'appelle aussi T.H. White, mais aucun rapport, aucun lien, je suis unique. Et donc... Dans cette interview, elle va parler un petit peu de son mari, essayer de développer une facette un peu plus personnelle de l'homme politique. Et elle va expliquer notamment que Kennedy était très fan de cette comédie musicale Camelot et que régulièrement il écoutait le soir une chanson en particulier, parce qu'on a une chanson hein, dans Camelot qui explique que ce rêve arthurien, ce rêve d'un monde utopique et glorieux, etc. C'était « one brief shining moment », c'est-à-dire un moment glorieux, un moment étincelant dans l'histoire de l'humanité, mais qui a été très bref. Et en fait, par là, elle va chercher à montrer, à associer ce gouvernement idéal mais trop bref de Camelot au gouvernement de son mari, qui avait été élu en 60, hein, si je ne dis pas de bêtises, donc voilà, qui a gouverné finalement très peu d'années. Là, on a une façon qu'a Jackie Kennedy d'orchestrer, de créer le mythe de son mari après sa mort. C'est aussi une façon de revaloriser son mandat après l'abbé des cochons, Marianne Monroe, tout ça. Voilà. Donc elle a plutôt envie qu'on se souvienne de son mari comme d'un nouveau roi Arthur, si vous voulez. Ce qui fait qu'à partir de là, ça va faire un petit peu effet boule de neige et on va parler des années Kennedy comme des années Camelot. Voilà, on retrouve ça dans la presse pendant un grand moment. Ça fait partie aussi de toute cette appropriation du mythe arthurien par les États-Unis. On le voit ici en associant la Maison-Blanche à Camelot. Dans l'extrait de Merlin l'Enchanteur qu'on vous a montré aussi, il y a un truc qui est assez fascinant, c'est que tous les personnages, ça se passe en Angleterre, hein, tous les personnages ont des accents anglais plus ou moins nobles, etc. Sauf le personnage d'Arthur qui a un accent américain. Donc le roi Arthur déjà apparaît comme une forme de nouveau héros pour les États-Unis. Alors je vais aller très vite, hein, mais cette façon qu'a eu Jackie Kennedy d'utiliser le mythe arthurien pour revaloriser un pouvoir politique, c'est absolument pas nouveau. Hein. C'est ce que fait déjà Henri II Plantagenet au XIIe siècle. C'est ce que fera Henri VIII Tudor aussi entre deux décapitations de femmes. Voilà, c'est quelque chose qui revient fréquemment parce que c'est prestigieux de se revendiquer d'un tel modèle. Sachant que pour Henri II, ça s'est un tout petit peu retourné contre lui. Version courte, Henri II a développé développé par des artistes et des auteurs des textes qui mettaient en avant le roi Arthur en tant que son ancêtre. Donc si vous voulez, quand vous êtes le descendant du roi Arthur, vous êtes forcément très prestigieux et votre pouvoir ne peut qu'être légitime. Or, le problème, c'est que ces textes disent aussi que Arthur n'est pas mort, mais qu'il est simplement blessé, parti quelque part à Avalon, d'où il reviendra un jour pour sauver son peuple, lorsque le peuple anglais en aura besoin. Donc vous êtes les paysans et le peuple du XIIe siècle. Bah, ça sert à rien d'approuver le roi qui est là, puisque Arthur va revenir d'une minute à l'autre. Voilà. Donc Henri II a vu son pouvoir par moments baisser parce que le peuple lui préférait la figure légendaire du roi Arthur. C'est à ce moment-là que, alors, le hasard fait vraiment bien les choses, en 1191, on a eu des moines dans l'abbaye de Glastonbury, donc c'est au sud-ouest de l'Angleterre, qui, en faisant des travaux, sont tombés comme par hasard sur le tombeau d'Arthur. Alors, un tombeau immense, parce que Arthur, étant un homme tellement glorieux, il était forcément géant, si vous voulez. Sauf que bah, si on a le tombeau d'Arthur avec ses ossements, c'est qu'Arthur est bien mort, et que donc il ne reviendra pas sauver et libérer le peuple breton un jour. Donc, on a eu une façon ici de... voilà, Henri II s'est retrouvé un petit peu piégé face à une légende trop puissante par rapport à lui. C'est quand même un sacré hasard que les moines, qui d'ailleurs avaient besoin d'argent à ce moment-là, soient tombés sur le tombeau d'Arthur et ainsi évincé toute la menace, si vous voulez, que pouvait représenter cet ancêtre trop glorieux. Je vais m'arrêter là parce que sinon je suis là jusqu'à demain.
On passe au Monty Python.
Ah, ben moi toujours.
Oui. Non, mais j'ai. Alors.
On aurait beaucoup de choses à dire. Hein.
Ouais, il y aurait pas mal de choses à dire et tout. C'est...
Donc, T.H. White qu'on voit ici avec son chien Brownie.
On va parler des Monty Python. On va passer à l'extrait numéro 3.
Ça remplacera notre c'est... numéro de claquette.
Voilà. Ah, maintenant. Ah, il y a des gens qui sont déçus. Hein.
Je suis déçu.
Ah non.
C'est pas ça. Quel mieux.
D'accord, il y a un problème,
non. Excalibur de John Boorman.
Alors, autant pour moi. Voilà.
Camelot. It's only a model.
Knights, I bid you welcome to your new home. Let us ride to Camelot.
We're knights of the round table. We dance whenever we're able. We do routine to call the scene to footwork impeccable. We dine well here in Camelot. We eat ham and jam and spam a lot. We're knights of the round table. Our shows are for the table. So many times we give and rise that our clients are able. We're off and mad in Camelot. We sing from the dire Camelot.
I have to push the pram along.
No, on second thoughts, let's not go to Camelot. It is a silly place.
Donc en 1975, on a les Monty Python qui s'emparent de la légende du roi Arthur et qui, parmi toutes les dénonciations et les parodies qu'ils peuvent proposer, ne peuvent pas s'empêcher un petit tacle bien placé à la représentation de la légende arthurienne à travers une comédie musicale, en montrant que voilà, let's not go to Camelot, it's a silly place, ça sert à rien d'aller à Camelot, l'endroit n'est pas sérieux.
Il y aurait beaucoup de choses. C'est pas vrai, on pourrait faire une heure et demie sur les Monty Python.
Ah, mais en fait.
Voilà, et avec des noix de coco en plus, c'est parfait. Voilà, ça serait voilà.
On fournira les noix de coco, si vous
voulez. Oui, bah, ça peut être une bonne idée. Alors, ce qui est, on va passer. Attends, parce que je reprends un peu Merlin. Ça, c'est ce qui a inspiré ça. On pourra reparler après sur les super-héros et tout.
Magneto en train de lire le texte de White.
Voilà, texte de White. Bah, juste un truc, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, vu que White, enfin, vu qu'avec Camelot, en fait, avec la comédie musicale, le texte de White et surtout la comédie musicale, ça devient plus largement, en fait, synonyme, en gros, des années Kennedy. Ce qui fait qu'aux États-Unis, quand vous dites Camelot, vous placez Camelot ou une référence arthurienne dans une œuvre, les gens, la plupart des gens, font un lien, en fait, direct avec les années Kennedy. En tout cas, la mythologie qui est liée aux années Kennedy, l'imagerie très idéalisée des années Kennedy, mais aussi la lutte des droits civiques, voilà, un moment progressiste dans l'histoire de l'histoire américaine, ce qui fait que dans les super-héros, là, concrètement, il y a non seulement avoir Magneto qui va lire Terry Chouette, mais il y a aussi dans le même film, le professeur Xavier qui va dire, voilà, à la fin du film, est-ce que vous avez lu, il dit ça à ses élèves, est-ce que vous avez lu le roman de Terry Chouette, etc. Tout. Et en fait, c'est vraiment, le truc, c'est, il y a vraiment une espèce de, il y a vraiment une imagerie, en fait, très progressiste, en fait, qui est liée vraiment maintenant à Kaamelott. Alors, c'était déjà le cas quand on disait la table ronde, c'est une espèce d'imagerie du melting pot et de la démocratie, mais c'est encore plus le cas, justement, avec Kennedy. Ce qui fait que, littéralement, le mythe arthurien aux États-Unis est un mythe très progressiste et très lié à la gauche. Ce qui fait que, en 92, quand Bill Clinton va se présenter, on va dire, c'est le retour de Kaamelott. Et en 2008, hein, quand Obama va se présenter, on va dire aussi c'est le retour de Kaamelott. Hein. En 2016, quand Donald Trump va se présenter, personne va dire que c'est le retour de Kaamelott. Voilà, donc c'est l'arrivée de la Kaamelott, hein, c'est pas la même chose, non, mais voilà. Et ouais.
Excusez-moi, c'est le roman de T.H. White. Enfin, les romans de T.H. White, ils ont été traduits en français.
Alors, les quatre premiers ont été traduits parce qu'en fait, le cinquième White n'a pas pu le publier du temps de son vivant parce qu'il y a eu la guerre, etc. Enfin, il y a eu plein de péripéties, ce qui fait que le cinquième tome, qui s'appelle The Book of Merlin, le livre de Merlin, il a été publié de façon posthume en 1977, mais les quatre premiers ont été édités ensemble, donc sous le titre The Once and Future King, c'est ce qu'on voit en version originale à l'écran. Ça a été traduit en français en tomes séparés. Il y a une réédition qui est en train d'être faite, mais qui n'inclut toujours pas le cinquième. Je travaille à essayer de faire une traduction du cinquième en attendant. Mais voilà, les quatre premiers ont été traduits dans les années 70 en France. Alors c'est un petit peu daté au niveau de la traduction.
Il y a eu un petit décalage.
Voilà.
Mais le titre, c'est La légende du roi Arthur, un truc comme ça. Le titre, c'est catastrophique. Vague. Voilà, c'est voilà. Mais c'est pas du tout connu. Enfin, c'est vraiment. Par contre, en Angleterre. Enfin, dans le monde anglo-saxon, c'est hyper connu.
Ouais.
Enfin, J.K. Rowling s'en a inspiré directement pour créer Harry Potter. Elle a dit, voilà, en gros, le lien entre Harry et Dumbledore, c'est le lien entre Arthur et Merlin dans The Once and Future King.
Harry finit avec... Enfin, c'est pareil, ouais. Je vous spoil Harry Potter, désolé, mais ça date un peu. Harry finit avec Ginny, sachant que dans The Once and Future King, Guenièvre est appelée Jenny. Enfin, voilà, on a plein de parallèles comme ça pendant toute l'œuvre.
Ouais, puis Dumbledore fait partie de l'ordre de Merlin, voilà. Donc voilà, donc son père s'appelle Percival, voilà, etc., etc., etc. On va passer d'extraits, on va passer parce qu'en fait, encore une fois, les années 60-70, c'est une période très riche pour le mythe arthurien. Donc on va passer d'extraits sur Excalibur, si tu veux bien, Alan.
Donc c'était le 3.
Ouais, alors ça se trouve, c'est moi qui fais une bêtise, c'est le 3.
Ouais. Voilà.
Have you found the secret that I have lost?
Yes. You and the land are one.
You and the land are one. Drink.
Wasting away. I cannot die. I cannot live.
Drink from the chalice and you will be reborn in the land with you.
Percival. I didn't know how empty was my soul until it was filled.
Arthur!
Ready my knights for battle. They will ride with their king once more. I've lived through others far too long. Lancelot carried my honor, and Guinevere my guilt. Mordred bore my sins. My knights have fought my causes. Now, my brother, I shall be king.
Prepare for battle.
bien voilà, moment d'Excalibur, à la fin, quasiment à la fin du film, hein, donc c'est Arthur qui boit dans le Graal. Alors en plus, là, dans ce film-là, Bourman, il prend le morceau d'Arthur, puis il fait un condensé, ultra condensé, vu qu'il confond deux personnages. Dans la version médiévale, il y a le roi pêcheur et Arthur, c'est pas les mêmes, voilà, donc bon, bref. Hein, c'est, on va passer, hein, c'est, ça serait assez, assez long à expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 60, on va, donc vous allez avoir de côté, donc le T.H. White qui va être vachement lu, en fait, hein, et puis de l'autre côté, on va lire de plus en plus, on va de plus en plus s'intéresser au Moyen-Âge, parce que dans toute cette génération contestataire des années 60, en fait, le Moyen-Âge, en tout cas le médiévalisme, le Moyen-Âge imaginaire, c'est associé vachement à l'idée de retour à la nature, hein, face à la technologie moderne qui est horrible, face à l'arme atomique, machin, machin et tout. Et c'est pareil, on va aller s'intéresser aux religions orientales, machin, machin. Et tout un truc comme ça, c'est très lié en fait, voilà. Donc, et pareil aussi, on s'intéresse beaucoup à la fantasy, notamment à Tolkien, parce que ça rentre complètement dans cette idée-là. D'ailleurs, à l'origine, Bourman, hein, qui fait Excalibur, il voulait faire une adaptation du Seigneur des Anneaux, il va pas réussir à le faire. Et il va plutôt faire à la place donc cette version, ce film d'Excalibur. D'ailleurs, à un moment dans le film, hein, Merlin il rassemble les chevaliers, il fait vous faites un anneau ensemble, etc. Et tout. Enfin voilà, il y a plein d'allusions.
Ils ont gardé des répliques.
Ouais, ils ont gardé des répliques. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que Bourman dans ce film-là, tout comme d'ailleurs toute cette génération-là, parce que vous avez vu dans les années 50, on va plutôt s'intéresser au chevalier, hein, comme personnage central. Hein, là, c'est vraiment l'idée du mal américain, etc. Voilà, self-made man et tout. Dans les années 60, c'est plutôt le jeune roi réformiste, hein, progressiste. Et puis, fin des années 60, on va s'intéresser plutôt à la figure du magicien. Puis après, de la magicienne, on en parlera plutôt avec toi. Hein, et là, pour le coup, le magicien, ça devient... donc Merlin, ça devient une espèce de druide proto-hippie, concrètement. C'est exactement ça, c'est le druide proche de la nature. Et d'ailleurs, à l'origine... Le film de Bourman devait s'appeler, non pas Excalibur, mais Merlin Lives, Merlin est vivant. Et si vous regardez bien Excalibur, le personnage central de A à Z, c'est Merlin. D'ailleurs, Merlin, dans ce film-là, c'est limite celui qui met en scène l'histoire, en fait. Hein. Il y a une espèce de décalage hein, entre Merlin. Merlin, il commente, en fait, le film, souvent. Il commente l'action. Et en fait, on comprend que Merlin, c'est Bourman, en fait. Et en fait, Bourman va me dire, je vous mets un extrait d'une de ses interviews, en fait. Hein. La légende arthurienne traite de la mort des anciens dieux, de la venue de l'âge de l'homme, de la rationalité de l'édois, de l'homme contrôlant sa vie. Il en paye le prix par la perte de l'harmonie avec la nature, qui inclut aussi la magie. Comme nous avons essayé de le faire comprendre dans le film, cette magie passe dans nos rêves et nous la perdons. Par conséquent, nous devenons nostalgiques. Le seul moyen de la retrouver passe par une forme de transcendance qui représente la quête du Graal. Et en fait, en fin de compte, à travers ce film-là, Bourman, il veut que les gens retrouvent hein, une espèce de magie intérieure. Il va aussi pas mal citer hein, des réflexions que Jung a fait par rapport à Merlin. Donc Jung, élève de Freud, hein, avec le cri de Merlin et tout. Il y a pas mal d'allusions comme ça, mais c'est vraiment le truc de dire, voilà, à travers ce film-là, les gens vont retrouver leur magie intérieure qui est détruite par le monde moderne. Et ça, c'est très, très... ça rentre vachement dans toutes les réflexions de l'époque. Hein, en fait, hein, j'ai pas le temps d'en parler, mais il y a vraiment des usages très politiques du mythe arthurien de la fantasy. Hein, je vous mets un exemple comme ça. Voilà, j'aurais pas le temps de développer là-dessus, en fait. Hein, mais en l'occurrence, oui, Astérix, c'est de la fantasy. On en débattra après si vous voulez. Mais en l'occurrence, vous avez juste à côté une citation de David McTaggart, en fait, hein, qui est un des fondateurs de Greenpeace. Et au moment il a écrit un bouquin en 78, et au moment où il décrit une des premières campagnes de Greenpeace en 72, donc contre les essais nucléaires français dans le Pacifique, et disait « Je lisais Le Seigneur des Anneaux, je ne pouvais pas m'empêcher de penser, de faire des parallèles entre notre propre fraternité et la dure quête des Hobbits au milieu des landes volcaniques de Mordor, fief du Seigneur des Ténèbres, qui vivait dans sa forteresse entourée de guerriers féroces, son œil maléfique scrutant sans cesse à la recherche d'intrus. » Donc dans cette espèce de parallèle-là, hein, qui est un parallèle très politique, encore une fois, la fantasy, vraiment toutes ces générations contestataires, que ce soit la fantasy arthurienne hein, ou la fantasy du Seigneur des Anneaux, c'est un outil de contre-culture et un outil politique. Dans cette métaphore-là, vous comprenez que Sauron, c'est Pompidou, en fait, hein, tout bêtement. Et ça sera mieux marché avec un public un peu plus âgé, en fait, voilà. J'essaie de faire la blague avec mes étudiants de prof de l'un et deux, ça a complètement tombé à plat. Genre,
adapte avec Trump.
Ils m'ont gardé, genre, voilà, genre, Trump, ça marchait mieux, voilà. Mais là, c'est extrêmement intéressant de voir ça, en fait, on a vraiment, vraiment le mythe arthurien, voilà, quand Bourman dit, on va retrouver notre magie intérieure, il y a vraiment un propos politique très fort, hein, dans ce qu'il dit, en fait, en fin de compte, il y a un propos qu'on retrouve aussi dans un de ses films suivants, hein, donc, j'ai oublié, mince, là, j'ai un trou de mémoire, forcément. La Forêt d'Émeraude, merci beaucoup. Voilà, donc, Et dans la forêt d'Emeraude, c'est la même chose en fin de compte. Hein. C'est une tribu d'Amérindiens qui lutte contre en fait un projet de barrage en fait. Hein. Donc avec pas mal d'allusions à l'eau aussi qui est très important chez Bourman.
Ah puis c'est justement dans tous ces héritiers de la vague qui naît dans des années 60, toute cette idée du New Age que t'évoquais un petit peu, cette idée de retour à la nature, de volonté de réenchanter le monde aussi. Tu parlais d'une une magie intérieure. Enfin voilà, cette idée de retrouver une harmonie, une communion avec la nature. Il y a tous ces points de vue-là qui évoluent, qui grandissent ensemble, qu'on retrouve chez Bourman, qu'on retrouve aussi après chez Marion Zimmer Bradley, par exemple. Oh, quel enchaînement magnifique. Je croirais qu'on l'a préparé, dis donc.
Ouais.
Mais effectivement, Marion Zimmer Bradley, c'est une auteure, une autrice, si vous voulez, qui publie un texte notamment qui s'appelle The Mist of Avalon, donc les brumes d'Avalon. Donc on est au début des années 80, mais elle commence à se faire connaître justement hein, dans les années 70 et dans les années 80. Et ce qui est intéressant, notamment dans Les Brumes d'Avalon, c'est que c'est certes une énième réécriture de la légende arthurienne, mais que c'est une version du point de vue des personnages féminins, et notamment du point de vue de Morgane, la fée Morgane, c'est-à-dire en gros l'éternelle méchante hein, de la légende, alors qu'elle était gentille d'ailleurs hein, dans les premiers textes. Chez Chrétien de Troyes, c'est une fée tout à fait gentille, tout à fait bénéfique, mais qui, petit à petit, au fil des réécritures, et notamment à partir du XIIIe siècle, va être diabolisée, comme en fait tous les personnages féminins. Hein. Guenièvre, c'est la reine adultère. On a Morgane, qui est donc la fée qui piège les chevaliers et qui est avide de pouvoir. Même si on regarde bien la Dame du Lac dans, chez Mallory, elle demande à ce qu'on décapite des gens. Enfin, voilà, les femmes n'ont pas le beau rôle dans la légende arthurienne. Déjà qu'elles sont peu nombreuses. En plus, généralement, elles cherchent à tuer tout le monde ou à tromper les hommes. Il faut globalement attendre les années 70 et surtout les années 80 pour avoir des réécritures qui revalorisent un peu ces personnages féminins. Les Brumes d'Avalon, ça a été adapté en téléfilm au début des années 2000. On voit ici l'affiche à droite. Donc dans cette réécriture, le personnage d'Arthur et les chevaliers sont finalement au second plan, au profit des personnages justement de Morgane, de Ygraine, donc Ygerne, la mère d'Arthur, Guenièvre, etc. Des personnages féminins qui sont pleins de nuances pour une fois et qui, alors il n'y a pas que des gentils, il n'y a pas que des méchantes, on a des vrais personnages complexes. Et à partir de là, on va avoir plusieurs versions, plusieurs réécritures qui vont redonner un petit rôle, rôle de plus en plus prégnant en fait, aux personnages féminins. Vous avez une série de comics qui s'appelle Castle, par exemple, où c'est une réécriture aussi, l'héroïne est une chevalier, donc une femme noire. Donc, voilà. En plus, il y a toutes ces considérations raciales et ethniques aussi qui entrent. Cette année, sur Netflix, vous allez découvrir la série Cursed aussi, qui est adaptée d'une réécriture de la légende arthurienne de Frank Miller et Tom Wheeler, centrée sur Nimue. Au début des années 2000, c'est pareil, on a eu Le Roi Arthur d'Antoine Fuqua. Il y aurait beaucoup de choses à dire dessus, pas que du bon. Mais parmi ce que propose le film, il y a au moins une revalorisation du personnage de Guenièvre. Alors certes, qui devient une princesse picte et une guerrière farouche, hein, mais bon, au moins, on a un personnage féminin qui a le devant de l'affiche. Littéralement, puisque si vous regardez bien l'affiche, on a Keira Knightley au milieu. L'actrice n'a pas trop apprécié qu'on retouche sa silhouette ainsi, puisqu'elle n'a pas cette poitrine. Hein. Mais vous mettez une femme au premier plan, il faut bien qu'il y ait un intérêt apparemment. Donc, voilà, début des années 2000, on a encore des difficultés. On met des personnages féminins, on les revalorise, mais on voit qu'il y a encore du chemin à parcourir sur ces personnages.
Ouais, mais c'est quand même une grande nouveauté, ça, pour le coup. C'est fait qu'en fait, là, c'est une transformation qui est importante dans le mythe arthurien contemporain. Et surtout, c'est devenu un truc, enfin, on en a partout, en fait. Tu parlais de Curse, hein, pour le coup.
Oui.
Curse, enfin, c'est centré, donc voilà, sur le personnage de Nimue et tout, qui est une guerrière, voilà, donc, qui est un peu vénère, en plus, voilà. Donc,
oui.
Voilà, donc, c'est vraiment, on le retrouve, pour le coup, vraiment
ouais.
Partout, quoi.
Ouais, et puis c'est vrai que les films et les séries télé vont beaucoup jouer aussi pour ça. J'évoquais tout à l'heure la série Merlin. Alors, c'est pareil, c'est une série plutôt pour ados, qui pourrait avoir plein de défauts, mais on a notamment le personnage de Guenièvre, qui est un personnage issu du peuple. Voilà, qui est une femme métisse et qui va devenir reine et qui va pouvoir régner alors aux côtés d'Arthur, puis Alors c'est pareil, je vous spoil, mais bon, hein, voilà. Quand Arthur décède, désolé, c'est elle qui règne et qui devient justement reine d'Angleterre avec toute cette tradition des reines puissantes qu'a eu l'Angleterre. Donc on a une revalorisation, mais tardive.
Ouais, puis en plus c'est assez marrant parce que c'est vu que c'est déshistoricisé la plupart de ces versions là en fait on fait voilà c'est dans les mondes de fantasy donc voilà. On fait un peu ce qu'on veut quoi voilà donc c'est assez amusant mais quand même toi c'est pareil comme tu dis voilà il y a quand même un même femme guerrière mais c'est toujours genré parce que c'est l'arc hein et pas les épées voilà donc ou c'est des épées courtes voilà c'est
alors
un
le...
truc voilà c'est très
voilà bah oui parce qu'une femme ne peut pas porter une épée normale si non. Tu veux non, voilà mais non, on est d'accord que je critique tout ça hein je...
c'est, non mais ça change mais tu vois même tu vois c'est tu vois quand même le changement mais
il y a une évolution,
oui, une évolution voilà, mais
progressive
mais qui est...
ouais. Donc c'est pour ça qu'on a hâte de voir là la série Curse voir ce que Netflix va faire du texte de Miller et Wheeler parce que il y a un personnage féminin fort qui est un personnage assez secondaire dans la légende arthurienne. Ouais. Hein, Nimue, c'est la Dame du Lac, globalement, parce qu'en fait, on a plusieurs. On a Viviane, on a Nimue, on a la Dame du Lac. Tout ça, globalement, c'est le même personnage. Mmh. Qui a une relation intéressante avec le personnage de Merlin, aussi. Donc, voilà, c'est un personnage qui a du potentiel pour porter la légende aussi avec sa version. Donc,
Avec pas mal d'allusions à la fantasy aussi, hein, très clairement.
Oui.
Voilà, donc... justement, enfin, si on va passer très rapidement, pareil, je vais devoir résumer 5 minutes un sujet assez vaste, parce que vous avez la fantasy qui s'est emparée hein, du mythe arthurien, qui l'a transformé, qui a pris des éléments arthuriens, parce qu'en fait, ça, c'est très compliqué aussi de voir, de faire la différence entre c'est quoi une œuvre arthurienne en fin de compte. Est-ce que c'est une œuvre qui va répéter le mythe arthurien ou est-ce une œuvre qui va prendre des éléments arthuriens ? Et en fait, voilà, je pense qu'on est d'accord pour dire que en fait, même une œuvre qui va prendre des éléments arthuriens, en fait, hein, devient, en fin de compte, hein, une œuvre arthurienne.
Oui.
Alors, je donne un exemple. Des éléments, parfois, ça peut être des trucs qui ont l'air comme ça, sortis de nulle part, mais en fait, ça joue un rôle important. Je donne un exemple parmi tant d'autres dans les super-héros, cette fois, on en a parlé un petit peu avec les X-Men. Voilà. La première équipe de super-héros s'appelle la Justice Society of America, donc, la JSA, en fait, hein, donc, qui apparaît à ce moment-là. Voilà, et ils se réunissent, c'est la première fois qu'ils se réunissent en fait, hein, donc vous voyez, c'est en hiver 1940, hein, donc c'est avant la Seconde Guerre mondiale, hein, avant l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. C'est le premier groupe de super-héros, ils se réunissent autour d'une table ronde, voilà. Et en fait, ils se réunissent pas pour faire une réunion puis après vivre ensemble une aventure, ils se réunissent littéralement pour se raconter chacun à leur tour une de leurs aventures. Ce qui est littéralement la définition que donne Vass en 155 de la table ronde. C'est la même chose. Et encore une fois, quand on voit à quel point le mythe arthurien est très populaire aux États-Unis, à mon avis, il y a clairement une allusion arthurienne là-dedans, surtout qu'il y a des super-héros qui ont aussi des éléments arthuriens dans, voilà, voilà.
Et c'est pas une utilisation c'est pas anodin.
Non, c'est pas anodin du tout. Et en plus, par-dessus le marché, hein, c'est vraiment une table ronde. Ce groupe-là, la JSA, va inclure assez rapidement une femme, donc c'est Wonder Woman, en fait, hein. Même si après, elle va pas vivre directement les aventures, voilà, c'est un peu, c'est encore une fois, c'est.
Elle fait bande à part.
Elle fait bande, enfin, voilà, elle reste, c'est la secrétaire du groupe. Alors, c'est pas la secrétaire qui est à la machine, mais c'est la secrétaire au sens politique, voilà, mais c'est. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est quand même au centre des compositions dans les images, voilà, elle occupe la place centrale, un peu comme le roi Arthur occupait la place centrale. Tu vois, c'est un peu comme dans les mythes médiévaux où c'est les chevaliers qui partent en aventure et c'est le roi Arthur qui reste.
Qui centralise.
Là, c'est Wonder Woman qui reste et puis les autres super-héros qui partent à l'aventure. Et il y a vraiment une idée, encore une fois, de melting pot, hein. Vous avez une image, encore une fois, tirée de la JSA, en fait, d'une aventure de la JSA. Pendant la guerre, cette fois, vous avez carrément la JSA mis au même plan que d'autres gens, en fait, voilà. Bon, les super-héros, c'est hyper progressiste à l'époque, hein. C'est fait par des auteurs qui sont des auteurs issus du milieu populaire, issus de l'immigration récente, notamment de l'immigration juive, donc ils sont très très progressistes. Hein. Et vous voyez, donc ils mettent sur le même plan les super-héros, et puis d'autres personnages, hein, vous avez par exemple des ouvriers, vous avez un ouvrier noir, vous avez aussi un soldat noir, en fait, vous avez des femmes en uniforme et tout, donc, et ils disent on est tous des Américains, hein, tout, et quel que soit notre endroit de naissance, etc. et tout, on a tous les mêmes droits et tout. Donc il y a vraiment cette idée qui est très forte. Hein. Autre utilisation arthurienne dans les super-héros, qui est aujourd'hui qui commence à être assez célèbre en fait, hein. Enfin le personnage il est ultra célèbre évidemment, c'est Captain America. Captain America, vous allez me dire bon pas arthurien, mais sauf qu'encore une fois là bon vous voyez que c'est la première apparition la première fois qu'il apparaît en mars 1941 dans Captain America Comics numéro 1, écrit par Joe Simon et Jack Kirby, il apparaît avec en train de mettre une patate à Hitler, donc c'est toujours réjouissant en fait, voilà, donc même s'il faudrait mettre d'autres personnes aujourd'hui, mais c'est notre débat. Mais le truc c'est que c'est ce qui est intéressant, c'est que il apparaît avec un bouclier, en fait, un écu médiéval, en fait, hein. Ça, c'est son premier bouclier, c'est la forme d'un écu médiéval, et en plus, ça se voit pas très bien, je pense, sur l'image, hein. Si, ça se voit un petit peu, mais en fait, il a une côte de maille, en fait, voilà. Donc, il a une côte de maille. C'est une côte de maille, son. Et pareil, dans la troisième aventure, en fait, où il apparaît, en fait, il se déguise littéralement en chevalier, en fait, voilà. Donc, Joe Simon, dans ses mémoires, en fait, hein, va le dire ouvertement, en fait, hein, voilà. Donc, alors, c'est clairement un super-héros qui est créé, en fait, hein, c'est un super-héros anti-nazi, en fait, hein, qui est créé par deux créateurs juifs, en fait, encore une fois, progressistes, et il dit « Nous avons besoin d'un héros qui irait se battre contre Hitler. Les États-Unis n'étaient pas en guerre, mais nous lisions les journaux, nous savions ce qui arrive en Europe, et nous étions furieux, totalement furieux contre les nazis. Nous avons pensé que le moment était venu de créer un héros patriotique. J'ai dessiné une esquisse de lui avec une côte de maille, je lui ai donné un bouclier, comme ceux des chevaliers que les chevaliers portaient. Ma passion pour le roi Arthur avait enfin payé. » Là, vous avez littéralement le co-créateur de Captain America qui dit « Je me suis inspiré d'un modèle arthurien. » Surtout qu'à mon avis, c'est une forme de pied de nez, en fait. Hein, donc, aussi, hein, aux Allemands qui, à l'époque, en fait, hein, tripaient notamment hein, sur la mythologie, sur Wagner, hein, sur Parsifal, etc. Et tout, sur l'imagerie chevaleresque. Hein.
Pierre qui cherche le Graal.
Les SS, hein, eux-mêmes, hein, Himmler pensait que les SS, c'était une nouvelle table ronde, en fait. Donc, c'était une manière, en fait, aussi, une manière culturelle, en fait, hein, et politique, hein, de répondre à ça. Autre super-héros arthurien, et encore une fois, je vais aller rapidement dessus, Thor. Voilà. Le mec, il lève un bouclier. En fait, si tu lèves le bouclier, c'est toi qui as les pouvoirs de Thor. Merci beaucoup. En l'occurrence, c'est le texte. Là, vous avez, c'est Journey into Mystery, numéro 83 en 1962. Et en fait, c'est créé par Jack Kirby, encore lui, et Stan Lee, et Larry Leiber, hein, qui est le frère de Stan Lee. Et en fait, les textes ressemblent. En fait, le texte que vous avez sur le marteau de Thor ressemble quasiment très pour très. Enfin, au texte en fait hein, que vous avez qui était repris là dans un texte de World Pile en 1915 hein, mais qui était le texte aussi qui était chez Mallory en fait hein. Donc là très nettement en fait vous avez plein de super enfin des super arthuriens, il y en a à foison, je veux dire c'est ce qui est intéressant c'est qu'encore une fois en fait là vous avez un détournement d'une mythologie nordique utilisée par les nazis, on colle un élément arthurien qui était pas du tout ça, il y a jamais eu d'allusion J'ai mis d'allusion au marteau qui devait se lever en fait hein, dans les textes nordiques, mais voilà là Stan Lee et Kirby mettent un élément arthurien tout bêtement en fait hein, dans cette mythologie nordique hein, qu'ils réinventent et c'est aussi une manière de faire un pied de nez, je pense en fait aux nazis en fin de compte qui utilisaient aussi la mythologie nordique hein, très nettement. On va passer, puisqu'il nous reste pas, beaucoup de temps en fait. Hein, on va passer à Camelot.
La dernière étape.
À la Camelot. Hein, on va sauter un extrait. Tant pis, je voulais montrer un extrait d'Avengers, mais ce sera pour une autre fois. On va passer à Camelot et on va mettre l'extrait numéro 6, si tu veux bien, Alan, et puis s'il te plaît.
Oh tiens, seigneur Léodagan, vous deviez pas arriver hier.
Figurez-vous que mon cheval s'est tordu la guibole sur vos saloperies de route pavée là.
Ah, c'est un coup à prendre des routes pavées.
Bon, c'est quand même formidable ce pays. Faut galoper à côté de la route pour pas se casser la gueule.
S'il dit pas de route pavée en Carmélite, il n'y aura pas de route pavée en Carmélite. Je suis encore assez grand pour savoir ce que je veux.
Mais quand on va chez vous, la route s'arrête net à la frontière. Après, on patouche dans la boue.
Bah, vous n'avez qu'à pas venir chez moi. Voilà, je vous ai demandé, moi.
Moi, je pense que le seigneur Léodagan n'a pas encore admis qu'il fait partie des peuples bretons fédérés et que la Carmélite n'est pas un cas à part.
C'est vrai que vous faites un petit peu comme ça vous chante. Hein.
Moi, au Pays de Galles, on m'a dit route pavée, j'ai fait route pavée.
Mais vous, de toute façon, on vous auriez de chier dans un bol. Hein.
La question, elle est simple. Est-ce que vous considérez que vous êtes fédéré ou pas?
Mais moi, je veux bien fédérer tout ce que vous voudrez, mais il n'y aura pas de route pavée en Carmélite.
Cette attitude est intolérable.
Ce problème doit être réglé.
Mais puisque je vous dis qu'il n'y a rien à régler. Chut, chut, chut.
Si. Ah. Tout va bien ?
Bien. Bien, 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 bien.
On a peut-être laissé la discussion s'envenimer un peu.
En même temps, il n'y a rien qui presse.
On pourrait peut-être passer à l'heure du jour.
Oui, oui, parfaitement, on va enchaîner.
On réglera ça plus tard.
Bon, en fait, l'ordre du jour, c'était la question des routes pavées en Carmélite.
On va pas passer la journée là-dessus, hein. Vous avez pas autre chose ?
Bah, bizarrement, non. Aujourd'hui, il n'y a pas surcharge.
Ah, bah... Et le Graal ?
Le Graal ? Eh ben oui, 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 c'est toujours plus ou moins à l'ordre du jour.
Qu'est-ce que c'est, le Graal ? Vous savez pas, vraiment ? Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il y en a pas deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Du seigneur, du chevalier errant,
des riches, des pauvres, mais à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose, le Graal. C'est le Graal qui fait de nous des chevaliers, des hommes civilisés, qui nous différencie des tribus barbares. Le Graal, c'est notre union. Le Graal, c'est notre grandeur.
Repousse les barbares, on tient tête aux Romains, on va bien réussir à trouver un vase, non?
Tout ça, c'est question d'organisation. On va quadriller le secteur et se partager les zones.
Il faudrait penser à envoyer une équipe en Gaule, au cas où.
Moi, je pars en Judée, on ne sait jamais.
Dieu vous assiste.
Et quelqu'un a-t-il des nouveaux renseignements à propos de Joseph d'Arimathie?
Moi, je crois que la clé, c'est Avalon.
Si on trouve Avalon, on est bon.
Moi, je m'occupe de la Calédonie.
Ouais, sauf que... Ouais. Pour aller en Calédonie, il faut passer par la Carmélide.
Et en Carmélide, il n'y a pas de route pavée.
Ça va gonfler, hein?
Ça va drôlement ralentir les recherches.
Eh, ah, vous n'avez qu'à les faire ailleurs, vos recherches.
Vous allez vous entêter encore combien de temps?
Le temps qu'il me plaira.
J'ai pas l'habitude de me laisser donner des leçons pour des pécheurs dans votre genre.
Ce qui est obligatoire pour tout le monde, ça l'est aussi pour vous.
Si vous voulez pas faire d'efforts, on s'en sortira jamais.
Bah vous, vous allez commencer par faire l'effort, par fiche la paix. Le premier Romain qui ponce apparaît chez moi, je lui fais bouffer, je reviens pas là-dessus. S'il y en a un qui veut régler ça à la filoche, hein, ça peut aussi s'envisager.
Alors essayez de trouver le Graal avec une telle équipe. Alors Kaamelott, qu'on ne présente presque plus, donc série française hein, qui est diffusée entre 2005 et 2009, oui déjà. créé par Alexandre Astier et diffusé donc sur la chaîne française M6. On n'a pas forcément l'impression que c'est entre guillemets aussi vieux puisque la série continue à être rediffusée toutes les semaines hein, sur les chaînes du groupe M6. Donc voilà, on continue à vivre plus ou moins avec depuis 11 ans. C'est une réécriture donc parodique de la légende arthurienne où le pauvre roi Arthur se trouve contraint d'exercer le pouvoir et d'essayer de trouver le Graal avec une équipe de bras cassés où ils sont tous lâche, bête ou vindicatif, comme les Padots, oui. Donc, on a ici un épisode qui est assez emblématique de la série, mais bon, c'est pareil, pour choisir, ça a été extrêmement douloureux, où on a le roi Arthur qui essaye de les unir, justement, dans cette quête du Graal et qui rappelle toutes ces valeurs qu'on a un petit peu évoquées et qui sont passées notamment par l'américanisation hein, du mythe, l'idée de la table ronde comme melting pot, ouais, comme lieu d'égalité. Donc c'est très bien, il y a des valeurs très nobles issues du Moyen-Âge aussi qui sont retransmises avec l'idée qu'il faut pouvoir trouver le Graal pour apporter la salvation au royaume ou à la terre entière. Sauf que donc pour faire les recherches, il faut passer par la Carmélide et qu'en Carmélide, il n'y a pas de route pavée. Donc toute la série, en fait, c'est une façon de prendre une légende qui a quand même été extrêmement idéalisée avec des personnages, voilà, les chevaliers qui ont inspiré les super-héros, c'est quand même des êtres exceptionnels, des êtres hors du commun. Là, on prend toute cette matière et on la rabaisse.
Ils sont exceptionnellement cons, en fait. Voilà.
Exceptionnellement. Ben, pas tant que ça.
Hein. Oui, pas tant que ça.
Regardez bon, autour de vous, vos collègues, vos amis. Ouais. Vous avez bien un Perceval là, autour de vous. Ben, voilà.
Ouais.
Je ne veux pas de dénonciation. Donc, on a une représentation burlesque ici. On prend les personnages légendaires et on en fait des mecs ordinaires. Voilà, voire moins qu'ordinaires. Je ne sais pas comment qualifier, mais voilà. On retrouve tout au long de la série pas mal de références au Graal, justement, avec une série qui s'appuie sur un grand nombre des réécritures qu'il y a eu avant, c'est-à-dire qu'on nous parle du Graal comme un vase, ou une coupe, ou peut-être un bocal à anchois.
Pierre incandescente.
Une pierre incandescente, donc là on fait référence à Wolfram von Eisenbach, hein, ouais. Qui au début du XIIIe siècle nous dit que le Graal c'est une pierre, je ne sais pas trop d'où ça sort, mais c'est bon, c'est Eisenbach. On a donc cette idée qui sort apparemment de nulle part du bocal à anchois, sauf que quand on se penche un petit peu sur la lexicologie de l'ancien français de l'époque, hein, quand Chrétien III utilise le terme de Graal, on se rend compte que le Graal, ça peut, il y a de fortes chances pour que ça désigne un grand plat long, un peu profond, vous savez, typiquement utilisé pour servir le poisson. Donc le Graal serait un plat à poisson, et si on en croit cette interprétation, c'est quand même Perceval le plus proche. Hein, donc voilà. Je serais vous, je m'inquiéterais.
Le problème, c'est que de toute façon, Chrétien III ne décrit pas le Graal. En
fait. Mais c'est-à-dire voilà. Que le texte de Chrétien III est inachevé. Le Perceval ou le conte du Graal est inachevé. Donc on voit, enfin Perceval voit passer le Graal dans un château.
Puis en plus, c'est pas l'objet le plus important de la procession.
Il y a aussi une lance qui saigne.
Lance, quoi. Ouais, donc voilà, donc c'est.
Alors après la lance, on sait d'où elle vient. Elle. Voilà.
Voilà. Oui, on sait d'où elle vient.
Jésus, etc. Mais donc on a un objet mystérieux utilisé pour nourrir un roi, le roi pêcheur, tout aussi mystérieux finalement. Sauf que Perceval se dit non, je pose pas la question parce qu'on m'a dit de me taire. Voilà. Ce qui est repris d'ailleurs dans Kaamelott. Hein. J'essayais d'arrêter de dire des trucs. Voilà. Donc Perceval se dit, je poserai la question demain à tête reposée, si vous voulez, et quand il se réveille le lendemain, le château est vide, et quand il sort du château, il n'y a plus de château. Voilà. Et ensuite, il va passer des années à essayer de retrouver ce château mystérieux et à essayer de retrouver le Graal, sauf que bah, Chrétien III est décédé en cours de route et qu'on n'a pas la fin. Voilà. Et que nous, ça fait 1000 ans qu'on cherche le Graal, globalement. Kaamelott, la série, enfin les nouveaux épisodes, si vous voulez, sont arrêtés en 2009. Ce qu'on sait, c'est que à l'heure actuelle, les chevaliers n'ont toujours pas trouvé le Graal. Mais je pense qu'on peut se donner rendez-vous le 29 juillet 2019. Kaamelott se poursuit. 29 juillet 2020, pardon. Kaamelott se poursuit sur grand écran avec un premier volet où on aura la suite des aventures des chevaliers. Sachant qu'on ne peut pas garantir qu'ils trouveront le Graal, parce que la réécriture est partie vraiment très loin.
Ou alors ils l'ont déjà trouvé, en fin de compte. Est-ce que c'est la réécriture elle-même de la légende ? Moi, c'est ma théorie. Voilà. Donc, est-ce que c'est la réécriture elle-même de la légende qui est, enfin, le fait d'écrire sa propre légende qui est le Graal, en fait, en fin de compte. Voilà, c'est.
Il y a de fortes chances. Mais.
Voilà, donc, mais voilà.
Il y a des théories qui se mettent en place.
On débattra ça dans 2-3 ans. On fera un cycle Kaamelott à la BNF. Voilà, donc c'est.
Avec plaisir.
Avec plaisir. Voilà. Donc, juste un truc, hein, on va finir, en fait, hein, vous avez vu, on a dû condenser, et puis on a dû speeder, en fait, hein, parce que je pensais, voilà, c'est, et encore, on a passé plein de choses, en fait, voilà, donc.
Malheureusement.
Mais juste un truc, hein, là, on a fait qu'effleurer le sujet, hein, donc, juste un truc, un Kaamelott, hein, comme vous montrez bien, comme l'a dit Justine, c'est très nettement en fait une œuvre arthurienne qui s'inspire des récits médiévaux mais qui est très influencée par la culture pop américaine, par les Monty Python. Voilà, il y a plein d'allusions à la fantasy, à Star Wars, à Warhammer avec les Skaven, enfin, des trucs comme ça, les gobs qui font du dungeon crawling comme des joueurs de Donjons et Dragons. Voilà, donc et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a aussi des c'est pas la première fois, enfin voilà, le mythe arthurien a été quand même en France a pas été aussi populaire en fait, hein, qu'aux États-Unis, en Angleterre. Mais il y a des réécritures qui ont été assez étonnantes. Moi, je travaillais un peu dessus, en fait. Hein. Enfin, je suis pas le seul, en fait. Hein, on a écrit quelques papiers, en fait, sur le site Retro News, qui est un site de la BNF, où on creuse un petit peu les archives de la presse française. Et là, on a, enfin, encore une fois, c'est pas une découverte, hein, mais c'est assez intéressant de le redécouvrir, en fait. Hein. Par exemple, Cocteau a écrit sa propre version du mythe arthurien en 37, hein, quand il a fait sa pièce, hein, Les Chevaliers de la Table Ronde, avec Jean Marais, en fait, un très jeune, voilà. Donc, hein, et c'est une pièce assez étonnante, hein, où il est question notamment, enfin, il y a pas mal d'allusions notamment à l'addiction de Cocteau, en fait, hein, donc voilà. Et pareillement, vous allez avoir, hein, ça, l'article vient juste d'être publié, en fait, Aragon, hein, qui écrit Aragon, Louis Aragon, qui en 1942 publie, en fait, hein, donc là, c'est sur le site Retro News, vous pouvez le trouver, hein, donc qui écrit en pleine guerre, en fait, qui se sert de la mythologie arthurienne, en fait, du mythe arthurien pour faire une œuvre à la gloire de la résistance, en fait, hein, donc c'est assez étonnant, en fait, hein, donc on pourrait se dire entre un auteur communiste, en fait, et puis le mythe arthurien, il y a un monde, mais en fait bah non, ouais, c'est assez étonnant, donc voilà, donc il y a pas mal de trucs, hein, c'est pareil, vous avez un article là qui est juste là, en fait, hein, sur les premiers néo-druides de Breton au début du XXe siècle qui vont utiliser le mythe arthurien en disant qu'ils avaient retrouvé plus ou moins Excalibur, enfin voilà, donc c'est un peu, voilà, c'est assez amusant, en fait, de voir que ça existe. C'est pas aussi majeur, c'est pas aussi développé, en fait, vraiment, que dans le monde anglo-saxon, mais il y a pas mal, hein, il y a aussi Apollinaire qui a écrit en 1909 L'Orchoteur pourrissant, en fait, hein, là, qui est un texte assez étonnant aussi, donc c'est mal connu, moi j'aimerais bien, je vais travailler dessus, enfin je travaille un peu dessus, mais c'est assez amusant aussi. La première BD arthurienne en France, en fait, hein, qui est complètement oubliée aujourd'hui, s'appelle Yves Leloup. Je sais pas pour ceux qui la connaissent, avec des gens qui la connaissent ici, mais en fait c'était une BD qui paraissait en 1947 dans les pages de Vaillant, en fait, hein, donc qui était un journal communiste pour les enfants, en fait, hein. Et donc c'est une version communiste, proche du PCF, en fait, hein, du mythe arthurien, qui est, à mon avis, directement inspiré du texte qui est très inspiré du texte d'Aragon, où là, Yves Leloup, il dit au roi Arthur que c'est un salaud, c'est un exploiteur capitaliste et tout, voilà, c'est, en fait, un croisement entre Perceval et Arlette Laguiller, vous avez un peu compris, voilà, c'est assez marrant, voilà, donc voilà, c'est vraiment où le mythe du Graal, c'est une invention, évidemment, des curés, voilà, donc c'est assez drôle, en fait, voilà.
Mais c'est une des richesses de la légende arthurienne, ouais. C'est d'être justement, dès son origine au Moyen-Âge, d'être tellement malléable, ouais, qu'on peut l'adapter à toutes les sauces, globalement, ouais, ça, et chacun voilà. Il trouve son bonheur, j'ai envie de dire.
Voilà, c'est ça qui est bien, c'est pour ça que je pense que c'est une œuvre qui va être appelée en fait, à continuer largement. En fait, voilà, donc on vous donne rendez-vous dans 5 ans pour la Suisse, quoi, en fait, voilà, ou 3 ans, 2 ans, 2 ans.
Le roi Arthur II, le retour.
Le roi Arthur II, le retour, il n'est pas content. Sur ce, il est 20h, 20h04, c'est ça, ouais, donc il va falloir qu'on libère les locaux. Merci à vous. Voilà. Si vous avez des questions, désolé, enfin, on n'a pas pu prendre beaucoup de questions, mais on sera en dédicace. Vous pouvez venir nous poser des questions en dédicace. Et eh bien, sur ce, n'hésitez pas à aller voir le site aussi. Hein, donc, Fantasy, sur le site de la BNF, avec notamment le jeu. Hein, voilà, le point and click très sympa et plein de matériaux. Et voilà. Merci. Merci à vous.
Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.